Le monde d'aujourd'hui fait face à une crise sans précédent. Plusieurs limites planétaires sont déjà atteintes et le réchauffement climatique impacte la vie de millions de personnes. Mais partons du principe que nous allons réussir à inverser cette tendance, que demain, nous vivrons dans un monde décarboné, que certains écosystèmes naturels seront conservés et qu'une nouvelle société humaine, plus juste, pourra voir le jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et Après, une émission dans laquelle nous partons à la découverte de cette nouvelle société pour tenter de décrire le monde de demain, ou en tout cas le monde que l'on peut envier pour les générations futures. Je me présente, je suis Augustin Morel et je suis ravi de vous accueillir pour ce deuxième épisode. Si vous ne connaissez pas déjà l'émission, l'idée est de partir à la rencontre de celles et ceux qui pensent, qui façonnent ce monde de demain, et pour chaque épisode, je vous propose une double approche. D'un côté, une vidéo disponible sur notre chaîne YouTube où vous trouverez l'essentiel du sujet, le plus souvent mis en image. Et puis, si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver ici, en podcast, un entretien avec là ou les personnes que nous rencontrons. Cette interview, pas ou peu éditée, vous permettra d'explorer le sujet, le thème de l'épisode, en profondeur. Voilà, c'est donc parti pour le deuxième épisode dès après, l'émission où l'on se demande, où l'on imagine, à quoi ressemblera vraiment le monde de demain. Un monde plus juste, plus décarboné et plus durable. Et aujourd'hui, nous sommes avec Gabriel Malek, président et cofondateur d'Alter Capitae, consultant en post-croissance, et puis, ce qui va aussi nous intéresser aujourd'hui, fan de manga. Bonjour Gabriel.
Bonjour, et merci de me recevoir. Ça va?
Ça va, t'es chaud?
Ah, je suis réveillé, je viens de rentrer du festival de la décroissance. Donc.
C'était bien?
Très sympa, ouais, c'était la première édition, 3 jours dans les Deux-Sèvres, avec plein d'organisations qui se réunissaient pour parler de décroissance, notamment en lien avec les élus locaux et beaucoup de citoyennes et citoyens locaux. Et c'est ça qui était notamment intéressant par rapport aux conférences qu'on a l'habitude de faire à Paris, où c'est beaucoup moins mixte comme public.
C'était sportif comme événement?
Ouais, c'était assez sportif. Il y avait beaucoup d'ateliers, des balades dans la forêt, etc. Donc ça bougeait. Et aussi un concert, notamment de HK. Et c'était vraiment très sympa.
Bon, bah super. Alors écoute, dans l'émission, on essaye d'être un petit peu positif. Malgré le fait qu'on est dans un mois de juillet caniculaire à Paris, en France, enfin dans le nord de la France, où on bat des records de température à la fois dans l'hémisphère nord et puis dans les océans, on essaye quand même d'être positif. Est-ce que tu aurais une bonne nouvelle à nous donner pour le climat, un truc qui récemment, où tu t'es dit, il y a un peu d'espoir encore, on va y arriver?
Bah, je pense qu'une des bonnes nouvelles quand même qu'on peut voir, mais en fait qui est une conséquence des mauvaises nouvelles, c'est le fait qu'on arrive comme de plus en plus à voir aujourd'hui les limites planétaires. Je pense que ça fait qu'il y a une prise de conscience assez forte et que les critiques notamment du système capitaliste ou de la croissance qui était, on va dire, très très minoritaire il y a quelques années commencent aujourd'hui à être de plus en plus massives. Et donc on voit un vrai mouvement, je pense, citoyen dans ce sens. Et qui amène à aussi des changements intéressants, comme par exemple le fait que de plus en plus, on peut donner des entités morales à des fleuves, à des forêts, à des entités naturelles, et on peut espérer qu'un jour, il y ait un changement de gouvernance qui est dans ce sens-là.
Ok, ça marche. C'est bien. Donc en gros, pour toi, la bonne nouvelle, elle est plus sur... c'est un moyen terme, c'est qu'il y a une prise de conscience générale et qu'on est dans une bonne dynamique, quoi.
Oui, j'ai l'impression. Après, le côté compliqué, c'est que même si ces idées commencent à percer dans l'espace public et... il faut savoir que bon, c'est notamment dans une certaine catégorie de la population, CSP+, donc c'est pas un discours qui porte tant que ça encore. Et en plus de ça, en fait, même si on commence à gagner la bataille des idées, il reste la bataille maintenant des institutions qui pour l'instant soutiennent encore ces intérêts capitalistes. Ouais. Et c'est là où il y a du travail.
Et on va en parler aujourd'hui. Alors le thème du jour, c'est la décroissance dont tu es un expert. Alors le mot expert, on l'utilise à tort et à travers, mais tu t'y connais pas trop mal, on va dire.
Voilà, mais je ne suis pas un chercheur, je précise. Voilà.
On va parler de décroissance, mais sous un regard assez intéressant, puisqu'il relie une de tes passions, qui sont les mangas.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je lisais depuis petit, hein, et qui m'accompagne jusque-là. J'ai continué à en regarder, soit suivre certains mangas que je lisais déjà petit et qui sont pas encore finis, ou des nouveaux mangas, ou animés en général, ou même des films japonais, notamment je pense au studio Ghibli, dont je suis un grand fan. Et oui, et bon, je le conscientisais pas forcément quand j'étais tout petit, mais aujourd'hui je vois à quel point ça a pu me marquer déjà, et à quel point les thématiques sociales, féministes, écologistes y sont abordées.
Bah top, super. Et pour nous, ça fait un super angle d'attaque pour la décroissance, qui est quand même un sujet un peu complexe. Et ça va nous permettre de mettre des images et d'illustrer peut-être avec des histoires cette idée de décroissance. Mais alors, avant d'aller la voir dans les histoires, cette décroissance, on va essayer de la comprendre ensemble. Est-ce que tu pourrais m'expliquer déjà la différence entre tout simplement la croissance et la décroissance?
Oui. Alors, la croissance, c'est le système actuel, c'est-à-dire qu'on mesure l'économie de manière macro en termes de PIB. Et aujourd'hui, les États, les collectivités, l'Union européenne va viser cette croissance du PIB et ça va mener à des comportements prédateurs sur la nature et sur les humains. Et donc, ça, c'est la croissance qu'on a actuellement. Et l'idée de décroissance, c'est donc l'idée de sortir complètement de ce paradigme capitaliste et d'aller vers une autre manière de comptabiliser la valeur. En gros, l'idée de décroissance, c'est l'idée de dire qu'on ne peut pas continuer en fait dans ce même paradigme de croissance, donc la croissance verte, tout ça, ça n'a aucun sens, et que forcément, en fait, il va nous falloir décroître en termes de PIB pour revenir en fait sous les lignes planétaires et donc dans un mode de vie qui est soutenable. Et la décroissance va apporter aussi pas mal de valeurs assez fortes, comme le partage des richesses, comme le féminisme, comme la lutte contre l'extrême droite. Et c'est là où la décroissance est vraiment intéressante, elle permet vraiment de changer de paradigme économique et sociétal. Là, en fait, où des termes comme croissance verte, économie régénérative et même post-croissance ne portent pas forcément la même radicalité.
D'accord, parce que donc en gros, ce que tu nous expliques, c'est que aujourd'hui, les gouvernements et les institutions gèrent le monde avec un seul indicateur. Grosso modo, c'est le PIB, donc on essaye d'augmenter la richesse qui est produite. Et en gros, la décroissance, c'est juste arrêter d'utiliser cet indicateur. Ou est-ce que forcément, ça passe par du coup une décroissance de cet indicateur?
Alors, le PIB n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il en a un. C'est qu'il est assez, fortement corrélé à la destruction du vivant. Donc, la décroissance vise la baisse de ce PIB et ce sera un bon indicateur pour la santé de nos écosystèmes. Mais c'est aussi, évidemment, réinventer le concept de valeur, réinventer le concept de prospérité. Et on peut, d'une certaine manière, avoir d'autres manières de prospérer. Et c'est ça aussi chez la décroissance. Mais ça demande un changement de paradigme énorme. Et beaucoup de changements dont on pourra parler, donc la sortie du consumérisme, donc cette idéologie de la consommation qui fait qu'on bouffe toutes nos ressources, la sortie du technosolutionnisme, la sortie aussi du productivisme, donc l'idée qu'on va travailler comme ça, et donc c'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, donc travailler pour produire de la valeur financière mais qui n'a pas vraiment de sens social ou écologiste. Et c'est voilà, inventer aussi des nouveaux indicateurs du bonheur. Et aujourd'hui, il y en a qui ont été développés, hein, mais clairement, c'est pas eux qui régissent aujourd'hui notre monde.
Il y a une sacrée transformation à faire. Et donc, du coup, parce que souvent, quand on parle de décroissance, on l'oppose à la croissance et donc on pense récession. C'est quoi la différence entre la décroissance et la récession?
Eh bien, la récession, si vous voulez, c'est une baisse du PIB qui est subie puisqu'elle arrive dans un contexte de croissance. Dans un contexte de croissance comme le nôtre aujourd'hui, où les États vont regarder ce qui se passe au niveau du PIB, où les choses comme les retraites, la sécurité sociale sont indexées sur le PIB, les choses où évidemment les résultats des grandes entreprises sont aussi sur des résultats financiers, et bien là, quand il y a une récession, donc une baisse du PIB, c'est très violent. Et notamment, évidemment, dans le système capitaliste, c'est toujours pareil, pour les plus précaires, ceux qui vont évidemment se prendre le plus dans la tête. Et donc c'est ça une récession. Si vous voulez, c'est une, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce mot, mais une décroissance subie. Enfin, en tout cas, une baisse du PIB qui est subie, qui est brutale. Là où la décroissance, c'est tout l'inverse. La décroissance, si vous voulez, c'est quelque chose qui est planifié collectivement dans un souci de justice sociale. Donc, c'est une baisse du PIB, mais qui est contrôlée, qui est voulue, qui est choisie pour des très bonnes raisons. Et donc, c'est ça la grande différence.
Oui, c'est le côté... comme tu dis, c'est volontaire et pas subi, quoi.
Volontaire et organisé.
Et donc, on peut maîtriser un peu les impacts que ça va avoir sur la transformation de la société.
C'est ça. C'est volontaire, organisé et pensé pour. Ça veut dire que s'il y a une répartition des richesses forte qui est choisie en même temps, bah évidemment, les plus précaires, dans ce cas-là, ne pâtiront pas de cette baisse. Aussi, il faut choisir qu'est-ce qui va baisser collectivement. Ça veut dire, bon, je ne vais pas faire des classements là, ce n'est pas moi de le dire, c'est des choses collectives à décider ensemble. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas plus important d'augmenter des choses comme la santé ou l'alimentation soutenable et respectable plutôt que les cosmétiques ou le nouvel iPhone 15 voilà. Donc, il y a des choses qui vont devoir baisser, c'est évident. D'autres qui vont perdurer, même peut-être prospérer. Hein. Mais il y a des choses qui doivent baisser. Et ça, il faut qu'on le décide collectivement. Et si on laisse, comme c'est le cas aujourd'hui, le marché le décider, on risque évidemment de valoriser certaines choses qui n'ont pas vraiment d'utilité.
Ouais. Et donc, tu as mentionné un mot clé qui est le capitalisme, qu'on associe forcément à la croissance. Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'étais allé voir... un film sur les pandémies. Ça s'appelait La Fabrique des pandémies, un super documentaire là-dessus. Et après, il y avait une séance de questions-réponses avec la réalisatrice et qui donnait son avis en fait sur comment sortir d'un monde libéral, néolibéral, du capitalisme. Et puis quelqu'un dans la salle qui s'est exprimé et qui a dit mais madame, ce que vous voulez, c'est du communisme. Alors, est-ce que c'est du communisme, la décroissance ?
Alors, cette question, je l'ai très souvent, et même parfois quand je prends la parole, etc., il y a des gens qui crient ça depuis le fond de la salle, comme quoi c'est communiste. L'idée, c'est pas ça. L'idée, bon, déjà, il faut être honnête, et franchement, on en parle souvent chez Alter Capitae, que les concepts de lutte des classes et le prisme marxiste matériel de regard sur le monde, quand même, fonctionnent très très bien pour décrire ce qui se passe aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est une lecture qui nous sert, et on pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable lutte des classes, ça, on en est sûr. Par contre, l'idée, c'est pas du tout de reproduire évidemment le communisme, et je pense que beaucoup de gens sont restés dans cette vision très duale du monde, notamment des gens qui sont peut-être plus âgés, où il y avait le capitalisme d'un côté et le communisme, qui était une certaine application du communisme, il faut le préciser. L'idée, c'est pas ça. Je pense que la décroissance, l'idée, c'est de réinventer un nouveau modèle, complètement, qui n'a rien à voir avec le capitalisme, qui n'est pas non plus du tout, absolument pas le communisme soviétique, mais qui va reprendre certaines idées de partage qui viennent du communisme. Et donc voilà, pour moi, c'est ça la différence, et c'est ce que je dis toujours, c'est que le modèle qu'il nous faut inventer pour aller vers la décroissance, ce n'est pas du communisme, en tout cas pas le communisme qu'on a connu. Mais beaucoup de gens restent bloqués là-dessus, et c'est un moyen de disqualifier toute critique du capitalisme, alors qu'on a très bien vécu sans capitalisme pendant beaucoup de temps.
Oui. Oui, il ne faut pas confondre le communisme dans la théorie que c'est, et le communisme tel qu'il a été appliqué en URSS...
Exactement, et je pense même, et ça c'est quelque chose un peu, c'est que le modèle qui est inventé pour la décroissance doit se nourrir de plusieurs idéologies, mais en tous les cas n'a pas encore été inventé.
Ouais.
Et je pense que personne ne l'a vraiment théorisé aujourd'hui, donc il y a plein d'ouvrages superbes qui ont été écrits, mais pour l'instant on n'a pas encore théorisé, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de procès à ce nouveau modèle qui n'existe même pas. Voilà.
Ouais, il y a tout à construire, quoi. Ok, super. Alors, je voudrais juste qu'on parle rapidement du rapport Meadows 1972, qui était la première alerte scientifique sur wow, on va trop vite, on va pas y arriver. Tu peux nous raconter un peu ça ou...
Oui, bah, c'était en effet un des textes assez fondateurs à une époque, les années 70, d'effervescence de production, pendant laquelle on se posait pas forcément beaucoup la question. Et l'idée, c'est qu'il y a une équipe de chercheurs, en effet, du MIT, qui ont pris cinq grands paramètres macro pour essayer de faire des modèles, essayer de voir si on continue dans cette perspective de plus en plus d'utilisation de ressources, etc., vers quoi ça nous mène. Et ils se sont rendus compte, évidemment, qu'on allait vers quelque chose d'exponentiel en termes de destruction des ressources naturelles et que, tout simplement, ce n'était pas tenable. Donc, ce qui aurait pu paraître, et je pense qu'il y a, enfin, j'en suis sûr qu'il y a des gens qu'on avait parlé avant, sur le côté un peu bon sens, que cette production, cette destruction de la nature pour créer de la valeur n'allait pas pouvoir tenir, eux, ils ont réussi à le montrer mathématiquement.
Ouais.
Et c'est un rapport qui a fait date et qui, malheureusement, n'a pas forcément été écouté à l'époque, d'autant plus que c'était juste après le choc pétrolier, etc. Ouais. Et que, en fait, malheureusement, dans le système capitaliste de répartition très inégalitaire des richesses, il y a cette rhétorique de il faut absolument produire plus de richesses pour en donner un petit peu aux plus précaires. Et donc, c'est pour ça que malheureusement, ils n'ont pas été écoutés.
Ouais, donc ce rapport, ça s'appelle les limites à la croissance. Et justement, ils partent du principe que, en gros, ils disent qu'avec une croissance infinie, dans un monde fini, on n'y arrive pas parce qu'on ne peut pas produire avec une quantité limitée de matériaux, quoi.
Exactement.
De flux de matière.
Oui, c'est ça. Et après, on peut le prendre parce qu'un des trucs qui m'embête, moi, parfois, et c'est que la question climatique est hyper importante. Mais très souvent, les entreprises, les gouvernements, etc., ont tendance à parler que de ça. Mmh. Et ils oublient des choses qui sont quand même assez. Par exemple, ce qu'on a en termes de minerais, etc. Et donc, ça, c'est des choses, évidemment, qu'il y aura des ruptures d'approvisionnement. Et donc, il y a toujours des nouveaux plans de on va aller chercher tout au fond des océans, on va aller chercher sur la Lune. Bon, il faut être réaliste au bout d'un moment. Et la question climatique est clé. Mais il y a aussi d'autres questions, simplement de finitude des ressources qui font que si on continue à consommer comme des malades, à un moment, il va y avoir des ruptures d'approvisionnement et là, ça va très très mal se passer.
Pour donner un exemple concret, alors j'ai pas une source fiable, enfin j'ai un vague souvenir, mais si on veut changer tout le parc de voitures aujourd'hui dans le monde en voitures électriques, il me semble qu'il n'y a pas assez pour faire des batteries. Ça te parle, ça ou...
Oui, c'est ça. Alors après, moi, je suis pas un expert du sujet, mais j'ai entendu plusieurs lu pas mal de textes là-dessus. Et bon, il y a aussi des gens assez médiatiques qui communiquent souvent dessus. Je pense à Jean-Marc Jancovici ou Aurore Stéphane qui en parle assez souvent. Mais en effet, pour moi, typiquement, la transition énergétique, c'est clé, il faut la faire. Par contre, penser qu'on va pouvoir la faire en ayant un parc de voitures privées comme on a aujourd'hui, c'est complètement fou. Typiquement, sur la question du cuivre, par exemple, l'idée d'avoir des voitures électriques, il faudrait aussi mettre des bornes, etc., les relier avec du cuivre, et c'est complètement c'est pas possible. Ou même, pour, comme tu le disais, en effet, pour les batteries, il faut des matières comme le lithium. Clairement, on n'en a pas assez.
On est un peu limité, ouais.
Et en plus, ça mène à des questions. Là, je voyais il n'y a pas longtemps en Argentine, ils ont décidé de doubler la production de lithium d'ici un ou deux ans. Et ça crée mais une destruction du vivant, des sols sur place énorme. Là, le gouvernement de la province qui en extrait le plus en Argentine vient de passer une loi pour justement pour limiter le droit de manifester, parce qu'évidemment, cette extraction de ressources, donc on a déjà fait pour notre croissance, mais là, qu'on refait pour la transition énergétique, se fait aux dépens de pays qui sont exploités. Et voilà, et donc après, c'est exploité dans ces pays-là, on détruit leur environnement, et on va revendre ça ensuite à des constructeurs automobiles européens, dont la seule idée est de continuer cette croissance.
Oui, oui. Ouais, mais il faut continuer la croissance, on nous dit.
Il paraît.
Ok. Ouais. Donc en fait, on est un peu dans un truc paradoxal dans lequel il est dur de se sortir. Et alors justement, sur cette finitude des ressources, on parle de plus en plus des limites planétaires. Il y en a plusieurs. Il y en a qu'on a déjà dépassé. Tu en as en tête comme ça des exemples?
Aujourd'hui, en effet, il y a 9 limites planétaires. On en a dépassé 6. Et la dernière, c'était celle sur le cycle de l'eau. Et ce qui est assez inquiétant avec cet enjeu des limites planétaires, c'est qu'en fait, c'est des limites, une fois qu'on les dépasse, l'idée c'est que la Terre ne pourra pas en fait, soutenir notre mode de vie. Et donc là, vraiment, je pense que c'est un message qui est assez fort et qui a été bien mis en valeur par la théorie du donut de Kate Raworth. Vous imaginez un donut, et dans le cercle du haut, vous avez les limites planétaires, et dans le cercle du bas, les fondamentaux sociaux, donc dans un monde avec un partage des richesses beaucoup plus efficace, ce qu'il faudrait produire en termes de valeur minimum pour que les gens puissent répondre à leurs besoins fondamentaux. Mmh. Et aujourd'hui, ce donut, on l'a dépassé, c'est-à-dire que vraiment, on a vraiment dépassé ce donut. Et c'est aussi pour ça que je rejette complètement les idées de croissance verte, ou même mon post-croissance avec lequel je suis moyennement à l'aise. C'est parce qu'il faut décroître, il faut retourner justement sous ces limites planétaires, auquel cas notre mode de vie n'est tout simplement pas soutenable.
Ok. Oui, donc pour toi, quand on parle de croissance verte et de technosolutionnisme, que tu peux peut-être définir au passage, c'est pas viable.
Non, complètement. La croissance verte, c'est pas viable, et ça, bon, ça commence à être quand même, je pense, relativement accepté. Et après, en effet, il y a une porte de sortie pour la croissance verte dont on parle souvent et que je déteste profondément, qui est le technosolutionnisme. Et donc, c'est l'idée finalement que, en fait, en mettant la technologie un peu partout dans nos vies, eh ben, ça pourrait toujours aller mieux. Et pour ce qui concerne la question écologique, grâce à la technologie, on va être sauvé. Bon, c'est quelque chose qui est complètement, je pense, délétère des deux côtés. Déjà, écologiquement, c'est n'importe quoi. Bon, les captures de stockage du carbone, on voit que ça fonctionne très, très peu ou pas. Et d'un point de vue social, on voit les dégâts que ça fait. C'est assez incroyable. Là, par exemple, dans l'éducation, on met de plus en plus de tablettes numériques. Et là, je crois que c'est en Suède, ils ont commencé à reculer là-dessus.
Ils ont enlevé l'informatique complètement de l'éducation, ouais. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait un effet inverse. Enfin, c'était contre-productif sur l'éducation, ouais.
C'est ça, contre-productif. Ouais. Et après, bon, c'est des idées comme le métavers, etc. Ouais. On va de plus en plus casser du lien social en essayant de le remplacer par du... Et l'espoir, du coup, comme j'en disais pour la croissance verte, c'est de dire, oui, d'accord, on a moins de ressources, mais avec le métavers, par exemple, on pourra créer de la valeur numérique en vendant des conneries avec des NFT. Bon. Et donc, c'est là, vraiment, où le technosolutionnisme, il est très dangereux. Ouais. Il ne fonctionne pas écologiquement. Et socialement, ce serait vraiment terrible.
Ouais. En plus, Meta, ça se casse la gueule, ça marche pas.
Oui, en plus, ça marche pas.
On voit bien que même dans un monde idéal, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Enfin, dans un monde idéal en ressources, ça marche pas, ça, les gens n'en veulent pas, quoi.
C'est ça.
Ok, super. Bon, parlé de la décroissance. J'avais juste une dernière question. Aujourd'hui, on sait que la croissance et le capitalisme en général augmentent les inégalités, en créent et les augmentent, notamment parce que le capital ne fait que grimper vers les classes les plus riches et que ce truc est tiré de plus en plus. Est-ce que la décroissance, c'est une réponse à cette problématique?
Ah, carrément, parce que justement, la décroissance, le préalable, et ça chez Alter Capital, on en parle tout le temps, c'est la question de la répartition des richesses. C'est-à-dire que ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est que le peu de politique écologiste qui est fait, en plus d'être vraiment pas assez, il est fait souvent en direction, il est adressé aux gens qui sont les plus précaires. Donc typiquement, les gilets jaunes, bon, on met une taxe carbone, très bien, sauf que ça va impacter qui en premier? Ça va impacter les personnes qui ont besoin de leur voiture au quotidien, et qui ont déjà pas forcément les moyens de payer des pleins, etc., très souvent. Et du coup, ça donne une image de l'écologie, mais négative, punitive, qui tape en tout premier les gens qui ont le moins. Et ça, c'est horrible. Donc, typiquement, au niveau de la décroissance, le préalable, c'est la répartition des richesses, c'est de taxer les plus hauts ménages, c'est de taxer les grandes entreprises cotées qui, justement, détruisent la planète et puis, en plus de ça, font énormément de profits. Et donc, oui, la décroissance, c'est indissociable d'un regard, justement, de lutte des classes qui existe et, justement, d'une répartition des richesses.
C'est même l'angle d'attaque dans la définition de la décroissance.
Oui, voilà. Pour nous, c'est en tout cas, et pour la majorité des mouvements de la décroissance, c'est tout à fait le... l'angle...
C'est par là qu'on commence, quoi.
C'est par là qu'on commence. Ouais. Sinon, c'est inentendable. C'est-à-dire que des gens qui n'arrivent déjà pas à boucler les fins de mois, on ne va pas leur demander de se priver en plus. Et c'est là vraiment où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et on pourra en reparler peut-être justement avec un des mangas, Tokyo Ghoul, sur la communication que font le gouvernement et les grandes entreprises, de toujours de culpabilisation de « Allez, c'est avec vos petits gestes que vous allez pouvoir. » Non, je pense qu'au bout d'un moment, il faut réguler certaines choses.
Ouais. Ok, bon, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Ouais. Alors maintenant, on va parler un peu de ce que tu fais, toi. Donc moi, j'avais une première question à te poser, parce que tu es consultant...
En post-croissance.
En post-croissance.
Donc post-croissance, la différence avec la décroissance, c'est quoi? C'est que la post-croissance, si vous voulez, pour moi, en tout cas, c'est l'étape qui vient après la décroissance. Ça veut dire, on reprend l'histoire du donut, vous redescendez, vous arrivez dans le donut entre les besoins fondamentaux et les limites planétaires. Et ensuite, en effet, une fois qu'on a fait ça, il faut trouver des nouveaux indicateurs sur, d'accord, on sort du capitalisme et de la croissance, mais maintenant, comment on mesure? Voilà. Et c'est ça la post-croissance. Donc, ce sera en fait une sorte de phase après la croissance, mais pour moi, il faut la décroissance avant. Mais une fois qu'on a fait ça, oui, en effet, on peut inventer des nouveaux indicateurs et là, essayer d'utiliser ces indicateurs pour avoir une phase stationnaire qui permette de rester sous les limites planétaires, mais au-dessus des besoins fondamentaux.
Ok, donc ce truc de post-croissance, en fait, c'est un peu le titre de notre émission, parce que nous, c'est « et après ?» point d'interrogation. Donc, et après, qu'est-ce qui se passe? Et ben, donc, c'est la post-croissance. Donc, tu as affaire, toi, à des entreprises et tu as fait un post sur LinkedIn récemment que j'ai trouvé assez intéressant où tu parlais d'un sondage via Voice commandé par HEC Paris, Le Figaro et BFM Business.
Qui pas disait... les plus grands marxistes du monde.
Ouais, voilà, c'est ça. Qui disait que 60% des cadres estiment que le réchauffement climatique doit inciter les acteurs économiques et les ménages à aller vers une stagnation, voire une réduction de la richesse économique produite. Alors, qu'est-ce que t'en penses, ça, de 60% des cadres? C'est quand même énorme.
C'est énorme, et c'est un peu ce qu'on disait au tout début de notre échange, c'est que aujourd'hui, particulièrement chez les CSP+, ce discours de la décroissance, la post-croissance, est en train vraiment, vraiment de prendre. Et en effet, moi, je parle à beaucoup de gens dans les entreprises, des petites et même des grosses entreprises. Et je le dis, moi, à titre personnel, je pense que les grosses entreprises cotées, comme les multinationales, à cause de leur structure actionnariale, ne pourront pas bouger. C'est-à-dire qu'elles sont trop capitalistes. Mais par contre, à l'intérieur de ces entreprises, et y compris à des postes de responsabilité, je parle à pas mal de gens qui se rendent bien compte qu'aujourd'hui, ce modèle de croissance n'est pas compatible avec les enjeux écologiques et sociaux. Et donc, en effet, je pense qu'il y a une prise de conscience très, très forte chez énormément de cadres, y compris dans des boîtes où on ne l'attendrait pas, et qui se disent qu'en effet, ce n'est pas du tout compatible, quoi.
Et après, ils arrivent à actionner ça dans la manière dont ils gèrent leurs entreprises?
Franchement, je ne pense pas.
Ouais.
Je pense que à un niveau d'une petite entreprise, du territoire, qui peut accepter, parce que par exemple, c'est détenu par les salariés ou par une famille, etc., qui peut à ce moment-là se dire « bon, bah, j'accepte de baisser mon rendement financier pour faire des meilleures démarches écologiques et sociales ». Ça, je pense que c'est possible. Par contre, malheureusement, typiquement pour les boîtes du CAC 40, etc., pour moi, c'est complètement impossible. D'ailleurs, on le voit dans la pratique, ils ne le font pas.
Ouais.
Et pourquoi? Parce qu'ils ont une structure actionnariale, ils sont détenus par exemple, je ne sais pas, par des fonds de pension nord-américains qui payent les retraites de personnes en Floride, etc. Et ces entreprises visent un rendement croissant. Et forcément...
Oui, c'est leur raison d'être en fait.
Bah oui, en fait, ils visent un rendement croissant. Et donc, quand tu as un rendement croissant, forcément, tu vas aller faire plus de destruction sociale. Par exemple, typiquement, tu vas te dire, bon, je veux plus d'argent. Ah, ça coûte cher, dis donc, en France, de payer la sécurité sociale. Tiens, je vais délocaliser mes usines là. Ou ça me coûte très cher de régénérer le lac que je viens de bousiller, donc je vais faire le minimum légal. Ouais. Et puis voilà. Et donc en effet, ces boîtes-là, pour moi, sont coincées.
Ok. Et donc dans un monde post-croissant, elles sont vouées à disparaître?
Oui, je pense que ce genre de structure est complètement vouée à disparaître. Il faut encore des grandes structures sur certains enjeux qui nécessitent d'avoir une forte concentration. Je pense par exemple à certaines questions de santé, des questions militaires.
Tout ce qui est réseau, le train.
Ce genre de questions-là aussi, les transports. Voilà, mais pour moi, il faut une gouvernance tout autre, beaucoup plus axée vers le public.
Ouais, ok. Bon, très bien. Et donc, en plus, toi, de ton travail de consultant, tu es président et cofondateur de Alter Capitae. Alors, je suis tout simplement allé sur le site sur lequel il y a écrit que Alter Capitae défend un nouveau modèle de société fondé sur l'idée de décroissance prospère, dont on va parler. Devant les catastrophes écologiques et sociales provoquées par l'idolâtrie de la croissance économique, nous souhaitons construire de nouveaux systèmes de production, de consommation et d'organisation collective. En abandonnant la boussole de la croissance, nous pouvons retrouver la prospérité perdue. Sacré programme. ma première question, c'est, vous dites que vous allez abandonner la boussole de la croissance, mais alors c'est quoi là où les nouvelles boussoles ? Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais...
Et ben alors, là où les nouvelles boussoles, ce sont donc des nouveaux indicateurs. Et bon, il y a deux niveaux qui sont assez clairement identifiés. Il y a le niveau macro. Et donc là, justement, on en revient un peu à la question de la post-croissance. Donc, c'est quoi les nouveaux indicateurs de bonheur, de lien social, etc. Pour vous donner un exemple, ça veut dire, moi, honnêtement, dans un gouvernement utopiste et idéal, je n'ai rien à foutre que le ministre de l'économie me parle du taux de croissance. Bah, là, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Je crois qu'on a fait 0,5% de croissance et Bruno Le Maire est tout content. Le taux de croissance, ça ne veut rien dire. Rien dire en termes social et écologique. Donc, ça n'a aucun sens. Par contre, un gouvernement qui dit, bon, écoutez, j'ai réussi à faire baisser la pauvreté de tant, ou tant de personnes ont réussi à être logées, etc., où on a dépollué tant de pourcents de sol, etc. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Ça, c'est des indicateurs macro qui me semblent pertinents, dont on ne parle pas, mais c'est ça dont il faudrait parler. Et je souligne ici les travaux de la sociologue Dominique Méda, qu'on avait fait intervenir à l'Agora de la décroissance, parce qu'on apprécie énormément ce qu'elle fait. Et elle, justement, elle parle en termes de post-croissance plutôt que décroissance, et pourtant, on est très aligné sur le fond. Et elle, justement, propose ces nouveaux indicateurs pour cette nouvelle société. Ça, c'est le niveau macro. Mmh. Donc voilà, les États, les politiques publiques. Et puis, il y a le niveau micro des entreprises. Et là, au niveau des entreprises, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas si on peut en parler, mais il me faut quelques minutes parce que c'est un sujet un peu complexe. C'est ce qu'on appelle la comptabilité multicapitaux.
Bah, vas-y, on t'écoute.
Bah, ça, c'est un truc que j'ai compris il y a pas mal d'années maintenant. Et quand j'ai compris ça, c'est ce que je vais vous raconter sur la comptabilité. C'est une des choses qui m'a mené directement à la décroissance.
Okay.
Alors, en gros... Et la personne qui m'a beaucoup parlé de ça, c'est Alexandre Rambaud, qui est co-directeur de la chaire comptabilité écologique, que je salue, et qui est vraiment une des personnes qui m'a inspiré. Alors en fait, l'idée, c'est que la comptabilité actuelle des entreprises mène justement à la destruction du social et du vivant. L'idée, c'est qu'en fait, au 15e siècle, il y a un choix qui a été fait, qui a été de dire, bon, pour une entreprise, le but, c'est de faire fructifier, de maximiser le capital financier. Donc, on met le capital financier au passif, ça, on doit le maximiser le max possible. Et puis, ce qu'on appelle très méchamment, j'aime pas du tout ce mot, les ressources humaines et les ressources naturelles, il faut les exploiter le plus possible pour pouvoir justement faire grandir ce capital financier.
Ouais.
Et donc, on a mis ça en place et c'est ça qui a mené à l'exploitation sociale et humaine qu'on a vu les siècles derniers. Et l'idée, c'est de dire, en fait, cette boussole-là, elle est complètement débile et il faudrait mettre au passif le capital, les capitaux sociaux et écologique. Et ça, en fait, ça mènerait à quoi ? Tout simplement à une dette écologique. C'est-à-dire, typiquement, une entreprise aujourd'hui qui se développe, quand elle emprunte de l'argent à la banque, elle a une dette financière qu'elle doit rembourser. Par contre, quand elle défonce la nature, il n'y a aucune dette à rembourser.
Ouais, c'est gratuit.
Voilà. Et donc là, en fait, quand tu exploiterais la nature, on calculerait en fait un coût qui serait celui de l'argent qu'il faudrait pour régénérer l'endroit cassé. Et donc, vous auriez, si vous voulez, une dette écologique. Une dette écologique à rembourser et évidemment, ce serait ce qu'on appelle soutenabilité forte. Donc, les capitaux ne pourraient pas se compenser. Donc, il n'y a pas de conneries en mode « Ah, je gagne plein d'argent, donc je donne de l'argent pour compenser la bêtise que je fais. »
Ouais,
non,
ouais,
non.
Ouais.
Il faudrait régénérer à l'endroit T. Et si on mettait en place cette comptabilité multicapitaux, toutes, je pense, bon, je peux faire les calculs, mais je pense que toutes les entreprises du CAC 40 plongeraient. Elles seraient même plus au-dessus de zéro, pour vous dire, en fait. Et donc, ça pourrait... Bon, je pense pas qu'on puisse sauver le capitalisme, mais en tout cas, on peut changer la nature de ce qu'est le capital, et je pense que ça changerait tout.
Ouais, c'est-à-dire que tu rajoutes une nouvelle notion de capital qui n'est pas un capital financier, en fait. Un capital matériel, naturel, parce que c'est le capital partagé, en fait, de la Terre, quoi.
C'est ça, et social. Et donc là, en fait, si vous faites ça, les entreprises, en tout cas, leur objectif de performance sera plus qu'est aujourd'hui, et leur objectif de performance actuelle, vraiment, est déconnecté en fait des enjeux socio-écologiques. C'est assez fou, hein, mais c'est ça.
Ça me fait penser au projet ACOP de Total, où effectivement, de leur point de vue comptable, aujourd'hui, c'est qu'une rentrée de capital parce que ça va générer un max d'argent. Mais en fait, si on rajoute cette idée de que tu appelles comment capital ?
Comptabilité multicapitaux.
Ouais, mais le nouveau capital, il s'appelle.
Ah, donc les capitaux naturels.
Voilà, s'il y avait un capital naturel en plus à ce projet, il serait carrément.
Il serait plus rentable du tout.
Pas rentable, ouais, c'est ça.
Ah bah non, il serait plus rentable.
Ouais. Et après, du coup, là, tu as une valorisation qui est complexe à faire quand même, mais qui pourrait être acceptée à une échelle internationale.
Alors ça, c'est un gros débat. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs méthodes de comptabilité multicapitaux. La seule qui nous paraît, parce qu'il y en a plein, il y en a beaucoup qui sont greenwashing, voilà, il faut le dire, mais il y en a une qui nous paraît bien, c'est celle du coup du fameux Alexandre, enfin entre autres, si on veut dire chercheur, mais ouais. C'est une des personnes en tout cas qui l'a impulsé, qu'on appelle la comptabilité CARE. Et en effet, du coup, bah, vous faites votre bilan financier comme d'habitude, et à côté de ça, vous allez devoir regarder quels sont les états biophysiques naturels des différentes parties pour le naturel qui sont dans votre entreprise. Et on va calculer quelle est votre dette par rapport à ça. Et en effet, c'est très complexe à faire. Parce qu'aujourd'hui, les comptables, ils sont formés à faire de la comptabilité financière. Mmh. Et là, il faut être mis en lien avec des scientifiques de sciences dures pour la partie sociale. Donc, la partie les écarts de salaire pour qu'ils soient les plus faibles possibles, etc. Il faut être mis en lien avec des sociologues. Et donc, c'est là où ça demanderait de réinventer complètement ce que c'est la comptabilité. Et voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet hyper intéressant. Et je vous conseille d'aller voir, du coup, un peu ce que fait la méthode CARE. Parce que nous, ça nous inspire pas mal.
Ah ouais, c'est super intéressant. Et mais parce qu'aujourd'hui, on a une comptabilité carbone, je crois, qui est pseudo mis en place.
Oui, parce que j'ai pas trop répondu à ta question, donc je vais le faire là. Mais c'est en fait l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a, si vous voulez, un plan comptable national. Mais après, pour tout ce qui est entreprise et grandes entreprises notamment, on a des normes comptables internationales. Bon, et ce qui est assez fou, c'est que ces normes comptables internationales sont définies par une sorte d'organisme de droit privé aux États-Unis, qui nous politiquement...
Pourquoi donc, pas
voilà, bon, en tout cas, c'est eux qui définissent ça. Et en fait, l'Union européenne, en 2002-2003, s'est dit, bah, puisqu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord, on va reprendre tout simplement ça. Et donc, en fait, nous, les normes comptables internationales qu'on a sont basées là-dessus. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ces normes comptables, en fait, poussent un peu l'idéologie capitaliste américaine, mais un des rares pays qui ne les applique pas, ce sont les États-Unis, qui eux ont décidé de garder intelligemment la souveraineté sur leur norme comptable. Ouais. Et donc, pour clôturer ce sujet, aujourd'hui, au niveau européen, on est en train de mettre en place une nouvelle directive, la CSRD, qui va demander aux entreprises un reporting plus exhaustif. Et on se demande, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il nous faut des nouvelles normes comptables? Et donc, on a créé un groupe au niveau européen qui s'appelle l'EFRAG, qui réfléchit là-dessus. D'ailleurs, la majorité des gens et le président de ce groupe sont des Français, puisque la France est très en avance là-dessus. Voilà. Mais malheureusement, on va probablement ne pas aller vers ces conclusions des frags et plutôt aller vers ces IFRS, du coup, qui sont des normes comptables qui ne prennent pas du tout en compte ce qu'on appelle la double matérialité. La double matérialité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont en matérialité simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles vont regarder les destructions qu'elles font sur la nature, elles vont s'y intéresser, mais par rapport à ce que ça pourrait leur coûter comme argent dans le futur.
Ouais.
Elles vont se dire, ah d'accord, on détruit la nature et tout, mais est-ce que du coup mon modèle pourra continuer à être... Voilà. Ouais. Donc ça s'appelle la matérialité simple, donc on regarde les sources naturelles par rapport au capital financier. Et ce qu'on appelle la double matérialité, ce que défend du coup l'EFRAG et non pas le think tank américain là, c'est de se dire, bon très bien, on peut s'intéresser aux conséquences sur le capital financier, mais surtout, on va s'intéresser aux conséquences en soi. C'est quoi les conséquences sur la nature par rapport à sa biophysique?
C'est pas que moi, mon entreprise.
Ouais, voilà. Ouais. Et donc, c'est encore le même enjeu de se décentrer de cette vision capitaliste.
Ouais. Toujours un peu la même idée. Ouais.
C'est un sujet très complexe, en tout cas, l'histoire de comptabilité, mais structurant.
Ouais. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, je reviens sur Alter Capitae, puisqu'il y a à peu près un mois, vous avez organisé l'Agora de la décroissance prospère. Donc, c'était un rassemblement pour réfléchir au sujet de la décroissance?
Alors oui, c'est ça. Et c'était aussi un moment, en fait, qu'on a fait un travail qui a duré quasiment un an de réflexion avant. Donc c'était un moment pour donner les propositions politiques qui sont ressorties de nos trois groupes de travail.
Ouais.
Et aussi d'inviter des militants, des chercheurs, etc. pour venir parler de la décroissance et montrer, on l'a fait aussi à Sciences Po, ce qui n'est pas un lieu anodin, pour montrer comment la décroissance peut maintenant gagner les institutions. Mmh. Et c'est tout le but de Alter Capitae, parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, la décroissance est restée cantonnée à des cercles chercheurs, militants, etc., qui faisaient des choses, mais qui n'étaient pas forcément entendus dans l'espace public. Et le rôle, en tout cas, que se donne Alter Capitae, c'est de porter ce message militant, radical, anticapitaliste, d'en discuter avec des personnes du monde économique, alors je le disais, plutôt des petites entreprises des territoires qui sont vraiment utiles, de discuter avec eux. Et notamment, je tiens à saluer Mélanie Berger, qui est la présidente du Centre des jeunes dirigeants. Donc, c'est 5 à 6 000 entreprises, souvent des petites entreprises qui sont dans toute la France, dans les territoires, et qui, eux, sont ouverts à réfléchir. Et donc, nous, on réfléchit avec eux. On réfléchit aussi avec les licornes, à ne pas nous confondre avec les licornes qui sont bien souvent inutiles, mais les licornes, c'est donc des coopératives, Enercoop, Télécoop, Mobicoop, qui reprennent en fait des secteurs d'activité économique essentiels et qui montrent comment on peut le faire fonctionner dans un esprit coopératif, dans une structure coopérative. Et donc, c'est ça. Donc, on a rassemblé un peu tous ces gens-là.
Et vous avez parlé de trois sujets, tu parlais des trois, c'est les trois pans un peu de votre réflexion, donc c'est énergie, comptabilité et imaginaire. Donc comptabilité, tu viens de nous en parler en fait. Et sur l'aspect énergétique, par exemple, c'est quoi le... De
alors,
quoi vous parlez ?
Oui, j'expliquais. Après, pour vous situer, l'idée de l'Agora, c'est que, si vous voulez, un an avant cette Agora, on rassemble des petits groupes de travail d'une quinzaine de personnes avec une coprésidence à chaque fois. Une personne qui est coprésidente, si vous voulez, chercheur slash militant, donc quelqu'un qui est responsable notamment de l'aspect décroissance radicale de la chose, et quelqu'un en face, quelqu'un issu du monde économique, plutôt, je le disais, CJD, coopérative, et ils vont constituer un groupe, et ce groupe va être mené aussi par Alter Capitae. Et en fait, ce groupe d'une quinzaine de personnes va se réunir plusieurs fois pour réussir à trouver 5 propositions politiques. Et donc, ça qu'on a fait sur 3 thèmes, en effet, pendant des mois, et c'était présenté lors de l'Agora. Donc, comptabilité. Donc, on avait justement, voilà, tout ce genre, on avait Alexandre Rambaud sur le côté
qui
chercheur.
Était le référent.
Voilà, et Mélanie Berger, du coup, du CJD, référent entreprise. On avait un groupe sur l'énergie avec la même question. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, et justement, on en parlait tout à l'heure avec la transition énergétique, on continue de se placer dans un monde où on va avoir besoin de plus en plus d'énergie. Bon, nous, ça nous paraît complètement, complètement débile. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, avec de moins en moins d'énergie, et si on n'est pas le seul à le dire, il y a aussi le Shift Project qu'on parle souvent avec M. Jacobici. Donc, comment on fait avec de moins en moins d'énergie pour allouer, pour planifier la bonne utilisation de l'énergie ? Voilà, est-ce que l'énergie qui nous reste, c'est pour aller alimenter des serveurs du métavers, ou est-ce que c'est pour alimenter des hôpitaux dans les déserts médicaux ? Voilà. Donc, c'est ce genre de choix-là. Et donc, ce groupe a réfléchi à ça, et on était d'un côté avec l'Institut Momentum, qui est un institut de réflexion sur la décroissance et la collapsologie, qui existe depuis longtemps, avec des gens comme Pablo Servigne, Yves Cochet, et Agnès Sinaï, qui était donc la personne qui était coprésidente de ce groupe-là. Et en face, on avait Gilles Vermeaux-Desroches. Alors, je le précise, qui était là à titre personnel, parce que dans la vie de tous les jours, il est directeur de la RSE chez Schneider Electric. Donc, il connaît très bien ces enjeux-là. Ouais. Mais nous, comme on ne voulait pas être associé à des grandes entreprises, mais en tout cas, il était là. Et donc, ils ont réfléchi sur ces enjeux d'énergie, et notamment sur la question des quotas. Et puis, le dernier thème, qui est le thème des imaginaires, et qui est vraiment un thème qui nous tient à cœur chez Alter Capitae. Les imaginaires, c'était comment on sort aujourd'hui, et vraiment, c'est là tout le sujet, comment on sort de l'imaginaire consumériste pendant des dizaines d'années, on nous a martelé de publicité, et encore aujourd'hui, pour nous dire, le bonheur, on l'a grâce à l'achat matériel, vous pouvez afficher votre statut social en achetant le nouvel iPhone 15, je sais pas quoi. Voilà, c'est comment on décolonise ces imaginaires-là, qui rendent aujourd'hui très compliqué de parler de décroissance, parce que les gens, depuis qu'ils sont petits, on leur a dit qu'ils seraient heureux. Bon. Et donc, nous, on essaie de déconstruire ça et de montrer comment, au contraire, on peut être heureux, voilà, en ralentissant, en ayant plus de temps pour voir ses amis, sa famille, en prenant soin des objets qu'on a. Et ce groupe-là, du coup, avait deux grands axes. Un, comment on sort de la publicité marchande, consumériste, et tout simplement comment on l'interdit. Et un autre point de comment on fait pour créer, voilà, un récit enthousiasmant, joyeux autour d'une décroissance, d'une prospérité, notamment en descendant à l'échelle territoriale. C'est-à-dire, c'est pas des choses qui peuvent être décidées depuis Paris, etc. C'est-à-dire, comment on fait réfléchir les gens dans les territoires, sur eux, leur territoire, voilà. Qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant. Voilà.
Ok, ça marche. Bah, c'est top. Sur ces trois thématiques, vous avez sorti 15 propositions. Est-ce que tu pourrais nous en donner une dans chaque thématique qui te marque ?
Oui. Alors, on a sorti en effet 5 par groupe. Et je tiens à dire qu'on va faire une seconde agora avec des nouvelles thématiques l'année prochaine.
Ouais, okay.
Mais en tout cas, pour ces thématiques, alors sur le groupe comptabilité, il y en a une que j'aime beaucoup. L'idée qu'en fait, aujourd'hui, à cause de la méthode de comptabilité actuelle, comme on l'a dit, la valeur n'est pas bien comptée. Ça, c'est clair. Et notamment dans les grandes multinationales. Et donc, cette première proposition, elle est assez simple. C'est taxer 80% des dividendes des entreprises de plus de 500 salariés écotées, donc les taxer, donc ce qui serait énorme, taxer tout ça.
Énorme, 80%.
Ah, c'est une bonne masse d'argent. Et on considère qu'il n'y a pas de raison de ne pas les taxer, vu que c'est de l'argent indu, qui n'aurait pas dû être compté comme ça. Et donc, on le taxe. Ensuite, on le donne à une agence parapublique de l'État, qui, je crois, a été nommée dans les propositions la Caisse de redirection écologique. Et cette Caisse de redirection écologique, redistribuerait cet argent à des petites entreprises des territoires, comme je le disais, super utiles, qui donnent du job local, qui ont un sens. Il le redistribuerait à ces entreprises pour que ces entreprises, parce que c'est très dur pour elles, puissent justement faire cette reconversion écologique, aller vers un modèle post-croissant, décroissant. Parce qu'en fait, ces entreprises-là, ces petites boîtes, etc., c'est les boîtes d'avenir. On leur demande de faire ces changements, mais c'est très compliqué quand déjà c'est compliqué de payer de ses salariés. Parfois, ils n'ont pas de responsable RSE, etc. Et donc, c'est leur allouer cet argent qui leur revient pour qu'elles puissent se reconvertir.
Donc ça, c'est la partie comptabilité.
Sur la partie comptabilité. Okay.
Et sur la partie énergie ?
Sur la partie énergie, il y a plusieurs propositions intéressantes. Je pense que je peux retenir une proposition, c'est celle sur la rénovation des logements. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de...
Vaste sujet, très simple en fait.
Mais qu'il faudrait faire. Ouais. Et nous, en fait, on axe la chose sur les logements sociaux. C'est-à-dire comment on fait pour prioriser ces logements-là. Et donc, on a fait une proposition là-dessus. Et après, il y a d'autres propositions sur des quotas énergétiques, etc. Mmh. Et le dernier groupe, du coup, c'est sur les imaginaires. Peut-être que je peux en citer deux. Il y a celle qui, moi, me plaît beaucoup à titre personnel. J'avais particulièrement suivi ce groupe. Comment faire pour passer et interdire, en fait, progressivement la publicité marchande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un moment où, franchement, on produit beaucoup trop de bêtises, comment on fait pour arrêter ces publicités marchandes qui nous agressent en permanence, par exemple, typiquement dans le métro, les écrans numériques qu'ils mettent pour nous vendre des conneries, là, c'est vraiment... Ou sur le... Voilà, où tout le monde en a ras-le-bol, je pense aussi des pubs qu'on a sur YouTube, sur les journaux, sur tout le monde. Et donc, c'est comment on interdit cette publicité marchande progressivement, première proposition. Et une autre proposition, c'est comment on s'inspire, par exemple, de la convention CN sur le climat, pour faire un peu des conventions de la décroissance joyeuse dans les territoires pour réunir les citoyens. Qui, parce que je l'ai dit, ça doit être fait à l'échelle du territoire, qui peuvent dire à l'échelle de leur territoire qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant comme récit, qu'est-ce qu'ils veulent garder comme valeur, etc.
Ok. Et alors, ces propositions, elles partent à l'Assemblée, là, ou c'est quoi le plan d'attaque après?
Alors, ces propositions, déjà, on avait invité, en fait, on l'avait transmis à des parlementaires et on a invité certains pour venir parler avec nous, voir ce qu'ils en pensaient. Donc, on a fait un choix, et qui est un choix clé de la Soit Alter Capitae, c'est de ne pas inviter l'extrême droite. Donc, l'extrême droite, pour nous, c'est-à-dire qu'il faut parler aux électeurs de tout le monde, évidemment, mais en tout cas, les partis de l'extrême droite, on ne veut pas leur parler. Donc, ils n'étaient pas invités. Par contre, on avait du coup invité un sénateur républicain. On a invité Delphine Bateau, de Génération Écologie, Alma Dufour, LFI. Et on avait invité aussi un député macroniste. Et donc, voilà, pour qu'ils viennent donner leur avis, etc. Et derrière, on a aussi médiatisé ces propositions. On l'a envoyé évidemment à des parlementaires. On en parle aussi à des élus locaux. Parce que je le disais, ce n'est pas que des choses qui ont vocation à passer dans un texte de loi, mais qui aussi peuvent être appliquées directement par des entreprises et même par justement des mairies, des collectivités territoriales. Et je le dis aussi, parce qu'on avait cette question au début des groupes de travail, qu'on a discuté avec les coprésidents et avec les membres des groupes. Voilà, on leur a dit, l'idée, c'est pas forcément de faire des propositions qui pourront être prises directement à l'Assemblée, vu le climat actuel, c'est-à-dire, bon, avec une Assemblée, on l'a vu, qui avait passé à la moulinette les propositions de la Convention citoyenne, qui est malheureusement très non libérale. Donc, c'était pas vraiment notre but. Notre but, c'est de faire des propositions radicales, etc., pour montrer c'est quoi le chemin vers lequel il faut aller. Et moi, j'ai beaucoup plus espoir qu'elle puisse être appliquée à des échelles locales, où il y a des gens convaincus, que pour l'instant, au niveau de l'Assemblée, où malheureusement, les forces en présence ne sont pas de notre côté, quoi.
Ouais, clairement. Ok, ça marche. On va enchaîner du coup sur le sujet des imaginaires et des mangas, ça y est, on y vient. Bon, les mangas, c'est un truc que toi, t'aimes depuis très longtemps, c'est ça?
Oui, c'est ça. Depuis que j'étais petit, j'adorais les mangas. Alors, à l'époque, en tout cas, je n'avais pas conscientisé que tous les enjeux écologiques et sociaux derrière, bon, j'en voyais, mais je ne l'avais pas conscientisé comme ça. Mais par contre, j'ai toujours adoré, en effet, l'aspect imaginaire des mangas. Par exemple, sur One Piece, qui raconte un peu les aventures d'un équipage de pirates, bah, je pouvais m'endormir en rêvant, par exemple, que sur une des îles qui traversait, je rejoignais l'équipage, etc. Et donc, les mangas, en effet, c'est quelque chose, en termes d'imaginaire, qui est extrêmement, extrêmement puissant.
Ouais.
Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Et je pense qu'il y a, en tout cas, à titre personnel, je ne connais pas d'histoire où les scénarios, où les personnages, on peut s'identifier autant. Et c'est extrêmement puissant.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est un des médias d'histoire les plus consommés en France. On sait que... Alors moi, je savais que la France était le deuxième pays consommateur de manga au monde derrière le Japon. Mais je ne savais pas qu'un livre sur sept acheté en France était un manga. Est-ce que, pour toi, cet engouement, il vient de... Enfin, on dit que ça vient du Club Dorothée qui, dans les années 90, diffusait pas mal de séries japonaises et que c'était unique au monde, cette diffusion. Mais pour toi, il y a une autre raison à ça, à cet engouement en France?
Alors, il y a pas mal de liens. Alors, je pense qu'en tout cas, le Club Dorothée a beaucoup joué. C'est-à-dire qu'à partir de 87 et cependant 10 ans, ils ont en effet diffusé énormément d'œuvres japonaises. Et je pense qu'aussi une des raisons, c'est que pourquoi le Club Dorothée a été annulé après 10 ans, alors que ça marchait très bien, c'est parce qu'il y a eu une très forte critique de la part de la culture bourgeoise, de la part de certains députés. Donc à l'époque, Ségolène Royal, par exemple, qui avait dit que les mangas, c'était le degré zéro du scénario, donc c'est-à-dire qu'elle n'a jamais lu de manga de sa vie, très clairement. et donc en fait, je pense que ça a été très critiqué. Et le fait, en fait, que ce soit critiqué par les tenants de la culture bourgeoise, etc., fait, je pense que les mangas en France ont peut-être eu une connotation assez forte de contre-culture, etc., associée au mouvement d'émancipation. Et donc, en fait, je pense que dans la culture Internet, etc., on peut penser à, Jean du Grenier ou même Usul, qui aujourd'hui est de plus en plus politisé, mais qui à l'époque faisait aussi beaucoup des vidéos sur ces sujets, les jeux vidéo et tout. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu un fort engouement. Et en effet, en France, c'est assez impressionnant. Un livre sur sept, acheté est un manga en 2022.
Ouais, c'est un truc de dingue. Et donc les mangas, c'est japonais. Le Japon a quand même une histoire particulière par rapport au reste du monde. Moi, j'ai vu Oppenheimer ce week-end. C'est vrai que ils ont une histoire compliquée. Et est-ce que tu penses que du coup, toute cette histoire très particulière, ça leur permet d'avoir un regard différent sur le monde, peut-être plus moderne que notre regard nous occidental, qui est très baigné en fait. T'en parlais sur la comptabilité, mais aussi dans notre fiction, ce qu'on consomme en œuvre de fiction, notamment au cinéma, c'est bourré de les États-Unis, c'est génial. Regardez comme on est les meilleurs. Et est-ce que tu penses que du coup, ce regard est très très différent et plus moderne qu'on a dans les mangas?
Bah, en effet, le Japon a une histoire particulière, donc si on revient sur certains points intéressants, l'idée c'est que pendant plusieurs siècles, le Japon était pas mal en autarcie, avec ce qu'on a appelé la période Edo, donc le Japon était beaucoup en autarcie et voilà, n'aspirait pas forcément à beaucoup échanger avec le monde extérieur, et il y a eu un changement assez brutal en 1853, où en fait les Américains ont envoyé du coup deux navires de guerre, commandés par le commodore Perry, qui en fait se sont mis près des côtes japonaises et ont plus ou moins dit, c'est la politique de la canonnière comme on dit, et ont plus ou moins dit aux Japonais, bon bah soit vous vous ouvrez au commerce extérieur pour qu'on puisse tous profiter des bienfaits du capitalisme, ou on vous tire dessus quoi. Et donc en fait ils ont dû s'ouvrir à ce moment-là par la force, et puis ça a mené à ce qu'on appelle l'ère Meiji, donc une ère de modernisation très rapide du Japon, où évidemment dans ces périodes de modernisation, etc., il y a une destruction un peu de pas mal de traditions locales.
Tu veux dire qu'avant 1850 ils étaient post-croissance?
C'est une bonne question, j'avoue que j'ai pas les éléments, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils étaient pas influencés comme ça par ce modèle capitaliste, et donc à partir de ce moment là ils sont en effet modernisés très rapidement, et puis ils ont connu, tu l'as souligné, la bombe nucléaire.
Un traumatisme national quoi.
Un traumatisme national de la violence, cette technologie capitaliste justement qui est capable de la pire destruction, et je pense que ça a été un traumatisme énorme. Et que le Japon est aujourd'hui, est aujourd'hui une société quand même assez baignée dans la contradiction, avec un modèle très productiviste, genre ils travaillent beaucoup, y compris d'ailleurs les mangakas. Hein, les mangakas, c'est très très...
Ah, tu travailles à la chaîne.
Ah ouais, vraiment, tu dois travailler très très vite. À chaque parution, t'as les lecteurs qui répondent à des questions. C'est assez bon. Mais je pense peut-être, et là je le dis vraiment quand je dis je pense, j'ai pas un ouvrage de psychologie à me référer, donc c'est vraiment, je le pense comme ça, c'est que je pense que c'est une société qui est donc, comme je le disais, très bordée, collective, où les gens, c'est compliqué d'être très original au Japon, quand on est original on peut être critique, etc. Et donc je pense que cette fait qu'il soit parfois très encadré, fait que du coup, certains expriment leur créativité d'une manière incroyable dans les mangas, et c'est peut-être une des choses qui explique pourquoi les scénarios des mangas sont aussi, aussi fous, quoi, aussi imaginatifs.
Et tu penses que, parce que moi, j'ai regardé, on va en parler, j'ai regardé un film Ghibli hier soir, et en explorant un peu les différents récits dont on va parler, est-ce que tu penses qu'il y a une dimension un peu plus spirituelle dans leurs récits qu'on a moins, nous, dans nos imaginaires occidentaux?
Ah oui, je pense que d'ailleurs les films sur Ghibli le montrent beaucoup, mais ce rapport dans le Japon à la nature, qui est un héritage aussi du shintoïsme, est très fort. Et je pense qu'il y a en effet un très très fort rapport à la nature au Japon, et qu'on n'a pas forcément en Occident, honnêtement. Je veux dire, il suffit de comparer les films Ghibli et les films Disney, et vous voyez la différence en termes de place de la nature. Et là, justement, au Festival de la décroissance, on a fait une conférence avec Ferris Barkat de Banlieue Climat, on partage tous les deux cet amour des mangas. Et en fait, justement, et Ferris souligne avec raison que dans les mangas et dans les films de Japanimation comme Ghibli, les paysages, au fil des dernières années, les paysages ont pris une place de plus en plus importante. Tu regardes un film de Ghibli ou n'importe quel manga, t'as des moments assez longs sur des paysages, tu vois la nature.
D'ailleurs, c'est super beau en général.
C'est souvent une très belle musique. Et ce qui n'est pas le cas dans les films occidentaux, où les paysages ne sont pas du tout mis en valeur comme ça.
T'as un plan large d'instauration, et puis après, tu passes à autre chose.
Voilà, donc la place de la nature n'est pas la même, c'est clair.
Ok, ça marche. Très bien. Alors, bah, du coup, on parlait des films de studio. Alors, moi, je dis Ghibli, tu dis Ghibli, je sais pas c'est
oui,
quoi.
Oui, il y a deux écoles. Il y a pas de vérité là-dessus.
Je sais pas c'est quoi la bonne prononciation. En tout cas, on va parler des films de Hayao Miyazaki. D'ailleurs, il y en a un qui vient de sortir au Japon. J'ai vu ça hier. J'étais hyper étonné. Je savais pas qu'il allait travailler sur un nouveau. Tu sais s'il va sortir en France?
Oui, il va arriver en France. Ah, oui. Et je crois que justement, il y a aucun marketing sur ce film.
Ouais.
Ce qui démontre encore bien la façon dont ils réfléchissent.
Ouais, c'est clair. Okay. Et donc on va en parler de trois en particulier. Alors c'est Nausicaa, Mononoke et Chihiro. Donc d'ailleurs trois héroïnes.
Oui.
Ce qui est, faut le souligner. Trois héroïnes qui ont chacun leur film. C'est des films qui sont sortis à des époques un petit peu différentes. Et c'est trois films qui mettent en avant des thématiques liées à la lutte pour l'écologie ou même à la décroissance. Disclaimer, on va peut-être spoiler un petit peu. Donc soit vous faites pause et vous allez regarder les films, soit on va pas forcément rentrer dans le détail des intrigues, on va plus parler des thèmes. Mais voilà, ne vous étonnez pas si on vous spoil un petit peu. Je vais te lancer un tout petit peu différemment sur les trois. On va commencer par Nausicaa, qui est sorti tardivement en Europe, mais qui en fait est le deuxième film qu'a fait Miyazaki en 1984 et qu'il avait d'ailleurs commencé par écrire en manga avant de le faire en film. Et alors, je vais vous donner le pitch de départ du film. C'est « Il y a 1000 ans, la Terre fut anéantie par la pollution des civilisations industrielles. Une forêt toxique a recouvert presque toute la planète et menace les derniers survivants. » Voilà, c'est un peu c'est le monde dans lequel on part. Pour toi, qu'est-ce qu'il raconte de particulier ce film? Parce que ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas au départ, la nature, la forêt, les insectes, c'est ce qui est méchant, c'est ce qui est mauvais. Et ça nous emmène un peu ailleurs. Alors, donc Nausicaa, t'en penses quoi?
Alors déjà, la thématique que tu soulignais, c'est en effet, ça c'est présent dans énormément de mangas, etc., ou de films d'animation japonaise, c'est l'idée que quand on fait du mal à la nature, elle va nous le rendre. Et donc, je pense que dans Nausicaa, il y a cette idée, en effet, que c'est exactement l'introduction que tu donnais, en fait, où cette civilisation capitaliste est étendue, notamment par Commodore Perry, et par la colonisation que l'Europe et les États-Unis ont menée, s'est étendue et a finalement, voilà, cassé l'équilibre entre l'espèce humaine et le vivant. Et à ce moment-là, la nature se réapproprie les territoires. Et dans Nausicaa, on est dans ce monde-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'un côté, en fait, Nausicaa, qui est la princesse de la vallée du vent, donc voilà, qui est une petite vallée, avec, on a l'impression, en tout cas, des gens qui ont réussi à, en tout cas, dans le manga, c'est plus expliqué que dans le film, mais des gens qui ont réussi à reconstruire un équilibre avec la nature, qui vivent de manière, voilà, raisonnée, etc.
Eux, ils sont post-croissants.
Exactement, ouais. Voilà, c'est typiquement un modèle post-croissant qui a l'air de fonctionner.
Ouais.
Et en face, on a les Tolkmed qui viennent justement à un moment attaquer la vallée du vent, qui eux sont restés une civilisation industrielle qui continue encore à attaquer la nature, etc. Et donc, ce que raconte Nausicaa, je trouve, c'est cette recherche de l'équilibre avec la nature, et que Nausicaa, on va pas spoiler, mais en tout cas, essaye d'atteindre pendant le film. Et cette sensibilité, etc., et cette opposition avec d'autres types de civilisations comme les Tolkmed. Et ça, moi, c'est une conviction que j'ai aussi très profondément. C'est le fait, en effet, que notre modèle va arriver, bon, beaucoup de gens le disent, va arriver vers une crise très très profonde, un monde de conflits, etc., et que certains vont peut-être aller vers ces modèles comme la vallée du vent, et voilà. Mais malheureusement, ce qui est assez certain aussi, c'est que d'autres pays, d'autres civilisations vont rester sur un modèle très productiviste, industriel, et vont creuser jusqu'au bout.
Ouais.
Et c'est ça qui est vraiment effrayant.
Et donc dans Nausicaa, il y a ces différents... Donc on est 1000 ans après l'ère industrielle, alors le monde a été détruit par des super guerriers qui ressemblent quand même vaguement à une image de la puissance nucléaire.
Oui.
donc...
Il faut savoir que Miyazaki, c'est un grand militant anti-nucléaire,
donc
je pense que oui, c'est un thème qui revient souvent.
Et donc en fait, on est revenu dans une société qui n'est plus mondialisée. Il y a des royaumes séparés, mais on a l'impression qu'ils vivent indépendamment les uns des autres. Et du coup, la vallée du vent, comme elle est un petit peu isolée, elle arrive à vivre tranquille, un peu comme le Japon avant que les États-Unis débarquent. Tu penses que c'est quelque chose auquel on va pouvoir revenir en tant que civilisation mondiale? Alors, je ne parle pas dans 20 ans, hein, mais à l'avenir, dans, je sais pas, 200, 300 ans, est-ce qu'on reviendra à quelque chose de plus local?
Oui, moi je pense que clairement on va aller vers ça, qu'il y aura une baisse des flux très forte, et voilà, et qu'on va devoir aller beaucoup plus vers le local, et c'est la question et ça pose des questions. Et je pense que Bruno Latour, il l'avait très très bien formulé dans un ouvrage qui s'appelle Les mauvaises herbes, écrit sur la ZAD, etc., où il dit comment on fait pour revenir vers ce localisme sans aller pour autant vers certains mouvements qu'on voit notamment très présents en France, identitaires, sans aller vers le rejet de l'autre.
Ouais, ouais.
Donc comment on va vers le localisme, etc., tout en accueillant ceux que, qui doivent être accueillis. Et donc je pense que c'est une thématique qui est posée, et quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir avec Nausicaa aussi, c'est l'idée que, en fait, je pense qu'il faut retourner vers ça. Mais typiquement, il faut continuer à garder un certain mode de défense et une armée, parce que je pense typiquement que dans un monde comme ça, comme je le disais, certaines civilisations, et dans Nausicaa et les Tolkmen, vont rester industrialisées, vont détruire leur sol jusqu'au bout. Bon, pour ne pas les citer, par exemple, les États-Unis, là, avec ce qu'ils font avec le gaz de schiste, etc., ils sont vraiment en train de détruire leur écosystème vivant tel qu'on ne le fait pas, en tout cas en France. Et je pense que quand ils auront épuisé de leurs ressources, ils iront militairement, comme ils l'ont beaucoup fait dans leur histoire, prendre les ressources chez d'autres. Et c'est ça que moi aussi je trouve en valeur la vallée du vent, c'est que même dans un monde post-croissant, etc., on réussit à retrouver un équilibre local, on reste dans un monde où certains peuvent venir et essayer de prendre tes ressources.
Et est-ce qu'on va pas du coup être amené à tourner en rond un petit peu sur un schéma qui se répète au niveau de l'histoire, où bah, d'accord, on a atteint une civilisation mondiale, on se stabilise, on repasse à des trucs locaux, et puis après, comme il y a des gens qui sont plus gourmands, ils vont réattaquer, on va repartir à une civilisation mondiale, et on tourne en rond?
Non, j'espère pas. Moi j'espère qu'on réussira du coup à réinventer cet équilibre-là, et que peu à peu... on puisse étendre ce modèle post-croissant un peu au reste du monde. Et ça ne veut pas dire, au contraire, qu'il n'y a pas d'échange, mais typiquement, ça change le type d'échange.
Ouais.
Donc, vous ne partez plus trois jours en week-end ou je ne sais pas quoi, en avion.
C'était notre sujet de l'épisode 1.
Voilà, bah, ça c'est fini.
Ouais.
Par contre, typiquement, un monde post-croissant où les gens peut-être auraient des vacances de 2 ou 3 mois, bah, alors avec des moyens de mobilité douce, on pourrait faire des voyages assez longs, mais un type de voyage très différent. Vous n'êtes pas là pour en tourisme de masse, pour exploiter.
Tu parles à la découverte d'une autre culture.
Voilà, et même tu peux rendre service aussi à l'endroit où tu vas, typiquement. Enfin, donc c'est très très différent comme démarche, et c'est peut-être un échange qui est même, c'est peut-être même sûr, c'est un échange qui est aussi beaucoup plus riche avec l'endroit que tu rejoins, plutôt peut-être dans des hôtels qui sont tous les mêmes, dans tous les endroits du monde, où enfin, franchement, il y a même pas
pensé pour toi, en fait.
Ouais, voilà, et donc, même pas à la découverte de l'endroit où tu vas, c'est ridicule.
T'as la découverte de l'hôtel. Ok, ça marche. Alors après, le deuxième film, et là on rentre dans les deux films, je pense, qui font partie des plus connus de Miyazaki, c'est Princesse Mononoke. Donc, Princesse Mononoke, on est dans un monde qui est plutôt aux prémices de son industrialisation. Et on suit l'histoire de Ashitaka qui quitte son village parce qu'il s'est fait attaquer par un démon et qui essaie de comprendre d'où vient ce démon et comment il peut améliorer la situation de manière générale. Et alors, il dit une phrase que j'ai notée parce que je trouvais ça assez intéressant et que ça pourrait être une bonne manière de voir le monde post-croissant. Il dit... Je dois porter sur le monde un regard sans haine. Est-ce que cette idée de la haine et donc de l'inverse, donc de la, je sais pas, de l'empathie, de la bienveillance, c'est quelque chose qui est essentiel à un monde décroissant?
Ah, c'est complètement essentiel. Ouais. Et c'est d'ailleurs, je reviens une seconde sur Nausicaa, mais ce que montre la Princesse Nausicaa, parce que tu le disais, la nature elle est un peu agressive dans l'univers de Nausicaa, et notamment c'est les insectes, notamment ce qu'on appelle des omous, qui sont une sorte d'énormes insectes qui sont un peu qui font un peu la, comment dire, qui au sein de...
ils portent la guerre, enfin c'est le membre actif de la forêt
qui va attaquer les humains qui l'attaquent, etc. Et Nausicaa, en fait, elle est vraiment dans un rapport où elle est aucune agression et qui défend ces insectes-là, y compris contre les attaques que voudraient faire certaines personnes de la vallée du vent contre ces insectes. Et je pense en effet que cette question de l'empathie et de la haine est hyper importante pour construire l'équilibre. Et c'est le rôle, je pense, qu'a Ashitaka dans ce film, puisque lui, bon, comme tu dis, en fait, bon, y a un démon qui va toucher son bras et donc il se trouve impliqué là-dedans. Et il va être impliqué notamment dans la guerre entre deux femmes, enfin en tout cas menée par deux femmes. D'un côté, du coup, la princesse Mononoke, qui a été élevé par des loups et qui est vraiment, on va dire, complètement côté de la nature qui se soulève, pour faire une petite référence, la nature qui se soulève et qui va finalement se soulever contre les humains qui l'exploitent. Donc d'un côté, on a cette princesse Mononoke qui mène cette lutte-là avec les animaux qui sont vraiment un peu en armée, organisés en armée. Et de l'autre, on a une autre femme qui s'appelle Dame Eboshi, qui elle, voilà, représente un peu ce que tu disais, c'est-à-dire ce début d'industrialisation. Donc c'est la chef, en fait, d'un petit fortin où il y a une forge. Donc, et c'est ça qui est vraiment brillant dans Princesse Mononoke. C'est donc Ashitaka, du coup, a ce rôle un peu, entre guillemets...
médiateur, quoi.
Médiateur, voilà.
Enfin, il essaye.
Il essaie de... Voilà. Mais en fait, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas vraiment de gentil. Ouais. Ça veut dire que Princesse Mononoke, bah, tu as tout à fait raison d'aider la nature à se révolter. Mais de l'autre, Dame Eboshi, là où dans des films Disney, ce serait une grande méchante qui rigole. Ouais. Bon, là, ce n'est pas du tout ça. Donc, elle mène, en fait, elle dirige ce fortin. Et qui habite ce fortin des forges? D'un côté, il y a d'anciennes prostituées qui travaillent dans ces forges. Et d'ailleurs, quand on voit les quelques interactions qu'elles ont avec les hommes des forges, on voit clairement que c'est plus proche d'un matriarcat que, ouais. que la société patriarcale qu'on a aujourd'hui. Et donc, d'un côté, il y a ces prostituées, et il y a aussi, en fait, des gens qui sont malades, qu'on voit enturbanés, et que Dame Eboshi vient visiter. Donc, on ne sait pas très bien, mais c'est, voilà, c'est des gens peut-être qui ont la lèpre, ou des gens disent aussi que c'est une référence à la maladie de Minamata, qui, en fait, c'était en 1907, au Japon, il y a une usine pétrochimique qui a relâché énormément de mercure. Ça a mené à des centaines de décès, évidemment, ah oui. à une destruction de l'environnement, et peut-être que Miyazaki faisait référence. Mais en tout cas, voilà. Donc, deux femmes qui mènent deux combats légitimes, d'une manière, parce que la défense de la nature, mais de l'autre, Dame Eboshi, c'est pas une grande capitaliste qui compte son nom au fond de la cave. Hein. C'est quelqu'un qui.
Elle a un aspect social aussi dans la manière dont elle gère son
tout
village.
Tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait.
Son fort.
Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment c'est assez social. Et donc, ça qui est intéressant, quoi. Et donc, lui, il essaie un peu de rétablir l'équilibre entre deux visions, et voilà, c'est pas manichéen, et c'est ça qui est magnifique dans Princess Mononoke. Ça montre la complexité de comment tu fais pour concilier les enjeux écologiques et sociaux.
Et que c'est pas, c'est pas simple. Il y a pas de bonne réponse et il y a pas de. Et je pense, enfin moi c'est mon avis, il y a pas de réponse globale,
non.
mondiale. C'est-à-dire que c'est local comme on disait tout à l'heure.
Tout à fait. Je pense pas qu'on trouvera la solution dans une COP.
Ouais. bah d'ailleurs, l'histoire prouve que pour l'instant on l'a pas trouvé.
Ah oui.
ok, très bien. Et alors dans ta tribune chez Uzbek Erika, tu mentionnais aussi le voyage de Chihiro. Donc là, Chihiro, c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans une maison, enfin dans un monde un peu magique,
ouais.
et où il y a une maison de bain qui est un espèce d'hôtel chic pour touristes, mais qui sont des monstres et des fantômes.
Voilà.
Et pour toi, ça montre cet hôtel-là montre les dérives du capitalisme.
Voilà,
j'ai archi résumé ce que tu avais dit.
Non, c'est ça. et non, c'est un peu ça. Et puis, c'est une analyse qui a été faite pas mal de fois sur Chihiro. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que du coup, elle arrive dans ce monde-là avec des parents, justement. Vous savez, donc en fait, elle se balade dans la forêt avec ses parents. Et là, ils trouvent une sorte d'endroit de festival, comme il y en a beaucoup au Japon, avec de la nourriture qui a l'air tout à fait appétissante qui est là. Et les parents se disent, bon, on va manger, c'est pas grave. Et le père sort la carte bancaire en disant, il n'y a pas de souci, on va bouffer. Et puis après, je paierai avec ma carte bancaire. Là, c'est évidemment le consumérisme.
On y est.
Et là, il y a la scène qui, je crois, a marqué tout le monde. Oui, se transforme en cochon. En tout cas, moi qui m'avais bien traumatisé petit. Et ensuite, donc, Chihiro se retrouve dans ce terme dont tu parlais, etc. Et tout de suite, on lui dit, tu dois trouver un travail. Là, on parle d'un travail souvent productiviste. En fait, elle va voir Yubaba, qui est la personne très capitaliste qui gouverne ce lieu et qui va lui enlever son nom. Et ça, c'est hyper intéressant quand même. Elle lui enlève son nom, son identité, l'appelle Sen. Bon, je ne suis pas un spécialiste des kanji japonais, etc. Mais apparemment, c'est moins de kanji, donc c'est moins. Enfin, bref. En tout cas, elle lui donne un nom comme ça et va l'exploiter pour qu'elle travaille. Et donc là, elle découvre le monde du travail productiviste, etc. Et on voit toutes ces logiques capitalistes au sein des termes. Qui sont notamment, je trouve, très très bien représentés dans la personne qui s'appelle Sans Visage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le espèce de fantôme tout noir avec un masque comme ça, qui en fait peut, à la faculté de créer de l'or. Enfin, finalement, c'est pas de l'or, mais bon, il a la faculté de créer de l'or. Et avec ça, en fait, il s'attire les bonnes grâces de tout le monde, qui le nourrit, etc. Donc lui, il accumule. Et la seule personne qui réussit à être insensible, c'est Chihiro, avec qui il rosait de l'argent. Chihiro, ça ne l'intéresse pas. Et justement, c'est là où Chihiro va ensuite faire un voyage. Et là, c'est hyper intéressant parce que du coup, elle va sortir des termes et prendre un vieux train. Et donc là, il y a tout un côté, je pense, au Miyazaki. Il y a un côté un peu la modernisation capitaliste a détruit un peu, de cette manière, le style de vie japonais à l'ancienne, convivial et tout. Et donc, elle prend le train jusqu'à une petite maison où elle rencontre Zeniba, qui est la sœur jumelle de Yubaba, mais qui, elle, représente vraiment le côté tradition japonaise, conviviale. Voilà, c'est une petite maison dans la campagne, sans prétention, où on fait du textile, de la couture, les petits gâteaux traditionnels. Sans Visage, d'ailleurs, le monstre dont on parle, enfin, l'esprit dont on parlait va rester habité là-bas. Et voilà. Et donc, il y a un peu les deux côtés du spectre japonais, de cette contradiction. Et il y a aussi une chose intéressante, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, du coup, en travaillant dans les termes, Chihiro doit faire un bain pour une sorte de monstre, un esprit, mais qui est dégoulinant, d'ordures, etc. Qui est tout, bon. Et donc, elle le lave, etc. Et à un moment, elle va lui retirer une épine. Et là, c'est rigolo, ça me fait penser aussi à Kirikou avec la sorcière dont on enlève l'épine. Bref. En tout cas, elle enlève l'épine de cette espèce de monstre. Et en fait, il se libère. Et en fait, c'est un esprit d'une rivière qui avait été polluée. Et donc, il est devenu une sorte de monstre. Et donc là, il est libéré par Chihiro. Et donc là, il y a tout un message aussi, évidemment, écologiste.
Ouais.
Et donc, c'est un film vraiment magnifique, Chihiro, avec beaucoup de... ça qui est très fort chez les Ghibli, avec beaucoup de niveaux de lecture où ça parle à des enfants.
Ouais.
Mais quand on est adulte, on peut clairement trouver des choses intéressantes aussi.
Et alors, tu penses que... Parce que ces films, on les connaît bien quand même. C'est des classiques. Est-ce que tu penses que, parce qu'on parlait de l'idée d'imaginaire, donc l'idée d'imaginaire, c'est présenter des récits, des histoires qui nous font voir le monde différemment ou d'une certaine manière. Et donc là, on est clairement dans des imaginaires qui sont compatibles avec tout ce que tu nous racontes depuis le début. Mais est-ce que tu penses que c'est facile de faire le lien entre ce qu'on voit et après notre monde à nous? Est-ce qu'il y a une applicabilité qui est évidente? Ou est-ce qu'il y a après, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui rentre en jeu pour catalyser une réflexion?
Je pense qu'il faut quelque chose d'autre, mais en fait, ce dont je me rends compte de plus en plus, et on se rend compte collectivement au sein de l'association Alter Capitae, c'est que le discours très rationnel de le GIEC, nanana, il manque des ressources en mine là, bon, c'est un discours dont on a besoin, et voilà, il y a des gens qui font des choses bien pour faire des plans, etc. Mais par contre, pour convaincre les gens de décoloniser leurs imaginaires, de sortir du consumérisme, d'aller vers une décroissance heureuse, il faut les toucher. Il faut les toucher de manière sensible. Et c'est là où je pense que des films comme Guy, etc., même s'il n'y a pas voilà, des chiffres qui expliquent comment on va rediriger le modèle économique avec la compta multicapitaux, il y a par contre le message. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Et donc, c'est pour ça notamment que j'ai écrit cette tribune, c'est parce qu'avec les mangas, c'est que c'est un médium, et pas forcément les Ghibli, justement, parce que les Ghibli ne sont pas forcément connus partout, mais des trucs comme One Piece, par exemple, plein de gens lisent ça, enfin, c'est 500 millions de copies vendues. Hein. Et donc, c'est comment on fait pour toucher les gens à travers des œuvres comme ça, mais à sensible, parce que je pense que c'est ça, en fait, qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, sur le discours scientifique, je veux dire, pour prôner la croissance verte, tu peux vraiment pas s'être renseigné, quoi. Par contre, pour convaincre que c'est quelque chose de désirable, etc., ben je pense qu'il faut toucher les gens. Et c'est là où ces films sont hyper utiles. Mais en effet, voilà, après, il faut aussi un travail scientifique,
Ouais,
etc.
il faut les deux. Ouais. Il faut être touché, entre guillemets, il faut être touché dans son cœur, quoi. Il faut une partie émotionnelle.
Ah oui, je pense que
Ouais.
c'est ça le principal,
Ouais.
ce qui nous manque pour l'instant dans les mouvements écologistes, c'est comment on arrive à plus toucher les gens de manière sensible. Justement, en partant aussi de la culture qui, eux, leur fait référence, voilà. Donc tout le monde va peut-être pas aller lire des ouvrages de 300 pages, de chercheurs qui font des super trucs théoriques, très bien. Mais après, il faut trouver des médiums aussi pour vulgariser ça.
Ouais. Ok. Et donc tu parlais de One Piece. Alors moi One Piece je connaissais pas du tout. J'ai même découvert que c'était des pirates, faut dire. Et alors je vais te poser une question qui est un non-challenge parce que tu y as déjà répondu ailleurs. Mais comment tu fais le lien entre One Piece et les soulèvements de la Terre?
Alors là, je vais faire. Alors déjà, je cite quand même, il faut le dire, un ouvrage qui m'a inspiré, qui est Fatima Wasak, qui est une personne très engagée au sein des quartiers populaires sur les questions de justice sociale, d'écologie, et qui a écrit L'écologie pirate. Et je l'ai lu ça, je trouvais ça très très bien. Et justement, elle montre comment One Piece en fait peut aussi parler à beaucoup de gens, notamment aux gens des quartiers populaires, sur en fait l'exploitation dont ils sont victimes. Par exemple, pour revenir deux secondes dessus, au début, de l'introduction de son ouvrage, elle parle d'un moment en fait où donc dans One Piece vous avez un personnage principal qui s'appelle Luffy, un peu le chef de l'équipage pirate qu'on suit, et donc il y a un flashback à un moment dans One Piece où on voit Luffy petit avec son frère et un de ses amis Sabo, et en fait ils sont dans un endroit, et en fait c'est vrai qu'ils sont dans un endroit très pauvre, une sorte de décharge qui en fait est séparée de la ville des riches par un énorme mur, et on leur lance des ordures. Voilà. Et parce
Ah,
qu'ils
c'est
sont.
hyper visuel comme
Ouais, c'est quand même très. Et donc, on lance des ordures, ils sont méprisés, etc. Et ils disent, on sortira de ça. Donc, il y a un côté émancipation, liberté. On sortira de ça, on ira voguer sur les flots et on sera libre. Et ça, c'est assez incroyable. Et c'est moi, genre, en tout cas, j'avais lu One Piece, mais c'est grâce à Fatima que j'ai pu aussi revoir certaines scènes à l'aune de ça. Et sur le lien avec les soulèvements de la Terre, c'est donc, bon, One Piece, pour la faire courte, c'est un monde dans lequel il y a un gouvernement mondial, très militarisé, très autoritaire, et qui réprime notamment ce qu'on appelle les pirates. Donc les pirates, c'est un peu des équipages avec un peu des pouvoirs magiques qui voguent au sein des flots, etc., à la quête de liberté, etc. Et souvent, on voit en fait justement que les pirates sont plutôt du côté de la justice sociale et des habitants, etc. Et le gouvernement est dans la répression. Et d'ailleurs, typiquement, à un moment dans One Piece, on sait qu'il y a une partie de l'histoire qui est oubliée, que le gouvernement a volontairement fait oublier. Et au début de One Piece, à un moment, enfin, c'est un flashback, mais ça a lieu vers le tome. C'est dans l'arc Ignace Lobby, bref. En tout cas, il y a un moment de One Piece où on voit que le gouvernement, en fait, a massacré des scientifiques. Donc, il y avait des scientifiques qui étaient sur une île, avec un arbre de la connaissance et tout, et qui faisaient des recherches sur l'histoire perdue, justement. Et le gouvernement, en fait, envoie des navires de guerre et détruit, enfin, tue les scientifiques en exécution sommaire, ainsi que pour cacher le secret. Voilà. Et pourquoi je vais là-dessus? Oui. Donc c'est ça, c'est le truc global. Et donc cet équipage de Luffy et ses camarades, donc c'est une petite dizaine, on va dire, de pirates. Donc c'est que des gens à chaque fois qui ont des histoires un peu hyper intéressantes, spécifiques, et qui aussi, comme Luffy, en fait, s'émancipent d'une certaine situation. Et à un moment, ils arrivent dans un royaume, le royaume d'Arabasta, qui est un royaume, si vous voulez, un peu d'inspiration, je dirais, Moyen-Orient, etc. Et en fait, au sein de ce royaume, il y a une crise sociale énorme, même une guerre civile, parce qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Et en fait, donc les pirates arrivent là et essaient de prêter main forte à la princesse du royaume qui essaie de faire en sorte que la guerre civile prenne fin et qu'on réussisse à retrouver l'eau. Et ils se rendent compte rapidement en fait, que l'eau, elle a été plus ou moins... si vous voulez, on dirait privatisée, mais si on peut dire ça, enfin, elle a été... C'est compliqué, c'est un truc un peu magique. Mais en tout cas, l'eau a été, on va dire, pour faire simple, privatisée par une petite bande de mafieux, dont le chef, d'ailleurs, est un capitaine corsaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pirate qui est adoué par le gouvernement.
Ouais.
Donc, voilà. Hein. Et donc, c'est eux qui ont privatisé l'eau. Et finalement, Luffy va se battre, etc., contre cette mafia pour que, pour que les habitants retrouvent la capacité à avoir l'eau, etc. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, j'ai fait un soulèvement un peu facile avec les soulèvements de la terre dans la tribune parce que ça, c'est intéressant de voir que ces pirates, donc on pourrait comparer plus ou moins à des écologistes, etc., ces pirates, en fait, sont condamnés comme des éco-terroristes et poursuivis par le gouvernement pour être mis en prison, etc., alors que finalement, ils essaient simplement d'aider le peuple de ce royaume à retrouver la souveraineté sur
un bien commun.
Sur un bien commun qui doit être l'eau.
Ouais.
Et donc, c'est là, de cette manière où, bon, en écrivant cette tribune, j'ai repensé à cet arc-là, je l'ai relu, et ça m'a fait penser à ça, quoi. Et c'est. Donc, oui, on peut faire une sorte de parallèle comme ça. Alors, je pense pas que l'auteur ait voulu faire ça au départ, mais c'est intéressant. Ouais.
Non, mais t'as quand même une problématique de gestion de la ressource, de gestion du bien commun, et de voilà. Et puis, même quand tu décrivais, je trouve le monde en général au-delà de cet arc narratif là avec un gouvernement un peu totalitaire qui cache l'histoire, qui cache même alors il tue des scientifiques qui travaillent sur l'histoire, mais c'est un peu cacher le fait scientifique quelque
part.
Et c'est un peu ça me rappelle des trucs qu'on peut voir dans les journaux quoi. Sans rentrer dans des détails. OK, ça marche. Il y a un dernier manga dont tu voulais nous parler, alors que pour le coup, je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Tokyo Ghoul. Raconte-nous.
Alors,
c'est connu ou...
C'est moins connu qu'One Piece, mais c'est quand même assez populaire, mais ce n'est pas le même style de manga.
Okay.
One Piece, c'est ce qu'on appelle un shonen. Donc, si vous voulez, c'est entre guillemets un manga pour jeunes garçons. Enfin, c'est ça en tout cas la dénomination au Japon, mais en tout cas, c'est un public plus jeune. Et donc, Naruto, Dragon Ball, One Piece, voilà, c'est toujours un peu cet arc narratif où il y a un Luffy ou Sangoku dans Dragon Ball, qui est un jeune héros qui va se dépasser, etc., par amitié pour ses amis, tout ça, tout ça. Et donc, voilà. Alors que c'est différent, Tokyo Ghoul, c'est un seinen, donc c'est un public plus adulte. Et qu'est-ce que c'est Tokyo Ghoul en deux mots? Tokyo Ghoul, donc c'est un monde, on arrive dans un Tokyo qui est en guerre civile, parce qu'en fait, d'un côté, il y a les humains, bon, voilà, nous, et de l'autre, il y a ce qu'on appelle des ghouls. Donc, c'est un peu des gens qui ressemblent à des humains, ils sont comme des humains, sauf qu'en fait, ils ne peuvent se nourrir que de chair humaine. Ils peuvent boire du café, je ne sais pas pourquoi, mais il a choisi ça l'auteur. Et ils peuvent boire du café, ils se nourrissent de chair humaine, donc il y a une guerre civile entre les deux. Et il y a une personne, en fait, qui va, par un cours de circonstances, qui était humain au départ, et qui va devenir borgne. Donc, à moitié humain, à moitié ghoul. Et bah, du coup, ça implique certains changements de vie. Et il va avoir du mal avec ce changement de vie, etc. Et il va se faire d'une certaine manière un peu attaquer, poursuivre par les institutions humaines qui attaquent les ghouls et par des institutions de ghouls violentes. Et donc, on va découvrir ces deux mondes en se rendant compte justement que c'est comme d'habitude dans beaucoup de mangas pas manichéens. C'est-à-dire que chez les humains, t'as des vrais connards qui torturent les ghouls, etc. Tout comme chez les ghouls, il y a des vrais... voilà.
Chacun ses problèmes.
Chacun ses problèmes, mais il y a des gens... Ouais. Chacun essaie de survivre. Bon. Et donc, en fait, pendant toute la première saison, il va vraiment être dans une culpabilisation personnelle de « Ah, comment je fais pour rejoindre les deux mondes? C'est de ma faute, etc. Bon. » Et il va avoir une scène qui est une scène de violence quand même assez voilà, je conseille d'avoir l'esprit bien accroché si vous la regardez. Mais en tout cas, il va se faire torturer. Et c'est là qu'il va... c'est très psychologique comme manga. Et c'est là, en fait, il va se rendre compte que depuis le début, son éducation, etc., lui a appris à être obéissant, à respecter les institutions, à respecter la parole de sa mère, qui lui disait de toujours être obéissant, etc. Et il va se rendre compte qu'au final, c'est pas lui le problème, en fait, mais que le problème, c'est les institutions et les vices qu'elles impliquent. Et c'est là qu'il va devenir, à partir de cette scène de torture, il va se transformer même physiquement et devenir plutôt un révolutionnaire hein, qui va attaquer les institutions des deux côtés pour essayer de changer le monde. Et donc ça, c'est un manga qui m'a marqué. Et en effet, dans la tribune, j'avais fait un lien avec quelque chose que je trouve vraiment, j'en parlais tout à l'heure, la culpabilisation qu'on a sur les gestes individuels. Ça veut dire qu'en permanence, Moi, ça m'arrive, je fais des conférences, etc. Et j'ai des personnes qui viennent me voir à la fin, souvent des femmes, qui viennent me voir et qui me disent, une mère de famille, qui me disent, bah, moi, j'essaie de faire tous les efforts. Parce qu'il faut savoir que la culpabilisation et les gestes individuels, c'est quelque chose qui, évidemment, touche principalement les femmes qui vont, elles, beaucoup plus prendre la culpabilisation que les hommes. Donc, en plus, il y a un côté sexiste. Et du coup, en fait, qui vont se dire, moi, je fais tout, je fais depuis 10 ans, je trie, je fais ce que je peux, la lumière, la douche, tout ce que tu veux. Mais ça continue à être de pire en pire. Et je pense que les gestes qu'on fait au quotidien, c'est hyper important pour être en cohérence avec nos valeurs, pour nous préparer au monde d'après, etc. Mais il faut arrêter de faire croire que c'est par là que ça va changer. Et en fait, je pense que c'est une question maintenant d'institution, etc. Donc, voilà ce que je disais. Donc, une grande entreprise, par exemple, qui d'un côté va dire, ah, on fait attention aux petits gestes, hein, les enfants. Et donc, avec un côté même un peu, infantilisant, hein. Et de l'autre, en fait, qui va dépenser un budget marketing monstre parce qu'elles doivent rester dans leur croissance. Donc, vendre de plus en plus de choses. Donc, d'un côté, on culpabilise sur les gestes. Mais de l'autre, on met encore plus d'argent pour de la publicité pour matrixer les gens pour qu'ils achètent. Et donc, là, je veux dire, on est quand même dans un, Et donc, je trouve qu'une certaine manière, même si on peut trouver ça un peu tiré par les cheveux, hein, c'est juste une opinion personnelle sur Tokyo Ghoul. Mais je trouve qu'il y a un peu ça, l'idée de, on sort de cette culpabilisation individuelle. Et en fait, c'est une question politique. C'est une question politique. Et donc, il faut essayer de collectivement se mettre ensemble pour faire bouger ça et que voilà, qu'il y ait une régulation de certaines choses, qu'on puisse taxer les entreprises qui doivent être taxées, qu'on puisse interdire les produits qui doivent être interdits, etc.
Sauf qu'aujourd'hui, pour les politiques et les grandes entreprises, c'est plus simple ce fonctionnement.
Parce qu'on ne
met rien en cause.
Parce qu'on ne met pas en cause le système, en fait. C'est ça. Et c'est ce que Kaneki fait après cette scène de torture.
Ok, ça marche. Bon, écoute, merci. Donc, en fait, quelque part, parce que ce manga-là, il n'a pas forcément vocation à parler en particulier de sujets de décroissance, d'écologie, ou quoi que ce soit. On peut faire le lien un peu dans n'importe quelle histoire avec ce genre de sujet. Il faut juste réussir à être touché un peu par les thèmes et les problématiques qui sont présentées. Et donc, ça veut dire qu'en fait, si on veut créer des nouveaux imaginaires fictifs, on n'a pas forcément obligé, si je veux faire un film sur la décroissance, j'ai pas besoin de faire un film, je parle à tous mes camarades réalisateurs, pas de faire un film sur un monde post-croissant.
Non, pas
ça
forcément.
Ça pourrait raconter complètement autre chose, en fait.
Ça pourrait raconter autre chose, et en plus, je trouve ça intelligent de distiller un peu subtilement les thématiques. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en vérité, des mangas qui sont purement écologistes. Là, on m'a parlé de Terrarium, que 4 tomes, donc je vais le lire. Mais en fait, tu vois, moi, la compta multicapitaux, j'aime beaucoup ça. Et en fait, c'est un sujet, quand on parle aux gens, compta... Par contre, j'avais réfléchi, par exemple, imaginons faire un manga sur la comptabilité multicapitaux, où un comptable va changer tout le système économique en mettant... Je pense qu'il peut y avoir un truc.
Ouais, un genre de One Punch Man de la comptabilité multicapitaux.
Ouais, en rendant sexy un sujet qui est... Bon, les gens n'ont pas forcément envie d'en entendre parler, mais qui est, on l'a dit tout à l'heure, qui est structurant de chez structurant. Et donc, ça pourrait être intéressant pour vulgariser ces idées.
Dans notre dernier épisode, on parlait de slow travel, on parlait beaucoup de train, et on disait qu'il fallait rendre sexy le train. Et je me souviens de Léo, un des trois personnes qu'on a interviewé, qui disait que maintenant, il trouvait sexy, il regardait des TER, il les trouvait sexy. Est-ce que tu penses que c'est le rôle des mangas et plus généralement de toutes les œuvres de fiction, de rendre sexy des choses qui aujourd'hui ne sont pas forcément désirables ou rendues désirables par la communication du capitalisme?
Ah, carrément. Et d'ailleurs, on en parlait avec Ferris, justement, il y a beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, chez... moi, c'est un monde que je ne connais pas forcément beaucoup, mais chez beaucoup d'influenceurs très connus, Inox Tag, etc., qui ont des millions d'abonnés, ils se revendiquent eux-mêmes, d'ailleurs, ils font souvent des références à One Piece et tout, de l'esprit shonen.
D'accord.
Donc, cette idée de, il faut que j'essaye de... comment dire, il faut que j'essaye pour l'amitié des gens, etc., pour essayer de me dépasser, etc. Et cet esprit shonen, il peut être extrêmement inspirant pour des gens, en fait. Et quand on met en valeur comme ça des personnages qui peuvent être révolutionnaires, justement, etc., et qu'on les met en valeur de manière positive, ça peut en effet donner des idées. Et c'est vrai que cet esprit shonen, je pense que c'est quelque chose de très réel, parce qu'il faut savoir que les mangas, c'est très populaire en France, c'est notamment populaire dans la jeunesse, et c'est quelque chose qui, contrairement à certaines cultures, touche vraiment, je pense, toutes les classes sociales. Les fans de mangas, on en trouve partout.
Ouais. Ça marche. Écoute, super, merci beaucoup. Donc, si vous nous écoutez et que vous lisez des mangas, on vous invite à les relire et à découvrir un petit peu quelle thématique vous pourriez voir sous un nouveau jour à travers cette nouvelle lecture. J'ai une dernière question pour toi, Gabriel, puisque c'est un peu le sujet de notre émission, le monde de demain. C'est quoi pour toi la vision du monde de demain? À quoi il ressemble? Alors, on en a beaucoup parlé quand même pendant cet entretien, mais si tu devais synthétiser un petit peu, tu dirais quoi?
Alors, le monde de demain, dans une perspective utopique, je le dis parce que je ne suis pas forcément très optimiste pour l'avenir, ce sera un monde où finalement on aurait complètement changé la notion de valeur, où l'économie, en fait, serait de nouveau réencastrée dans des perspectives sociétales et non l'inverse. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai l'impression que bah, c'est l'économie qui va dicter, en fait, les comportements sociaux, alors que ça devrait être l'inverse, ça devrait être un choix sociétal et ensuite... Et donc, pour moi, ce serait un monde, voilà, où les entreprises qui resteraient seraient des petites entreprises, etc., avec une gouvernance beaucoup plus démocratique, avec un vrai partage de la valeur et qui aurait une vraie utilité sociale ou écologique.
Ouais.
Donc, ce serait ça. Ce serait un pouvoir politique décentralisé avec des territoires qui auraient beaucoup plus de pouvoir parce qu'on l'a dit, en fait, une bonne partie des décisions maintenant doivent être prises au niveau des territoires. Je pense quand même qu'il faut garder un État, il faut garder un État central pour certaines thématiques qui, voilà, c'est pas une envie que j'ai, mais je pense que dans le monde futur, avec les grandes migrations qu'on aura, les ruptures d'approvisionnement, il y aura forcément du conflit. Et donc, sur les questions de la santé, sur les questions peut-être de la protection, de la défense, il faudra quand même garder aussi un État central avec des relais, avec beaucoup moins de flux, etc., mais quand même des flux entre les différents pays. Voilà, et une sorte du productivisme. Mais ce qui est hyper excitant, je pense, dans la décroissance, et c'est là vraiment où je pense que les gens qui nous font des procès en disant qu'on veut revenir, ça arrive tout le temps, hein, qu'on veut revenir parce qu'il, enfin,
les Amish.
Ou qu'on veut revenir même au modèle stalinien, etc. Bon, c'était, je veux dire, l'URSS, c'était un modèle très, très productiviste qui n'avait rien d'écologique.
Ouais.
Et qui, de sa manière, n'était même pas communiste. Et donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est ça qui est hyper excitant, et c'est ça qu'on dit aux gens qui veulent aussi venir. Je vous invite d'ailleurs à suivre Alter Capitae, et on va faire pas mal de choses prochainement. C'est que c'est un monde qui reste à inventer avec des valeurs dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est à inventer. C'est hyper excitant quand même de dire qu'on peut. Et je pense que notre génération, il y a un côté quand même très le monde d'après, c'est compliqué de se projeter et tout quand on voit tous les problèmes qu'on a. Mais le côté la bonne nouvelle entre guillemets, c'est qu'il y a un monde, il y a un monde qui est devant nous à inventer, quoi. Et ça, c'est un côté très excitant.
Ça permet quand même d'être un peu optimiste.
Oui, ça c'est quelque chose qui permet d'être optimiste pour le coup. Moi, c'est quelque chose qui me donne de l'optimisme.
Bah écoute, merci beaucoup, un grand merci Gabriel d'avoir participé à ce deuxième épisode. Un grand merci à vous qui êtes encore là après cette petite heure et demie de discussion. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur la décroissance et qu'on vous a donné envie de voir ou revoir Miyazaki ou de partir à la découverte ou la redécouverte de nouveaux mangas. Si ce n'est pas déjà fait, foncez vous abonner à notre page Instagram émission et après, notre page Facebook, notre page LinkedIn ou notre chaîne YouTube où vous pourrez retrouver un condensé de cet épisode en vidéo. Si l'émission vous plaît, surtout parlez-en autour de vous, likez et partagez nos posts, nos podcasts et nos vidéos pour faire tourner les algorithmes. Enfin, vous connaissez la chanson. Enfin, si vous voulez nous soutenir financièrement, car nous sommes autoproduits, vous pouvez passer sur notre page Buy Me a Coffee. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Pour finir, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, questions, suggestions ou vos meilleurs mangas post-croissance pour le monde de demain à emissionetapres@gmail.com sans aucun accent ou sur nos réseaux sociaux. Nous démarrons tout juste la production, donc tous vos retours seront les bienvenus. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour le prochain épisode. D'ici là, passez un bel été décroissant. À bientôt.